Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Foot.
Flora Moussi.
Salut à tous, c'est parti pour deux heures de live dans l'intégral foot. On laissera la main ensuite à Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet pour Bartoli Time avec un invité de taille aujourd'hui, hein. Tony Nadal, l'ancien coach et oncle de Raphaël Nadal, nous parlera du retour annoncé à la compétition de la légende espagnole. On a notre légende à nous, c'est Coach Courbis qui est toujours avec nous. Ça va, coach? Franchement, là, je te mets bien. Belle présentation. On va parler Ligue 1, évidemment, dans quelques instants pour le coup d'envoi de Lille-Metz. Le LOSC invaincu, hein, depuis 7 matchs en Ligue 1 va tenter d'enchaîner face à une équipe messine en confiance en ce moment. Et puis c'est le rendez-vous de l'intégral foot aussi le dimanche. On reviendra sur les résultats des matchs de 15h avec nos reporters sur place et vous surtout. Appelez-nous au 32-16 pour venir participer et nous donner votre avis sur votre équipe. Allez, direction Lille tout de suite. On va retrouver Jean Baumel pour ce Lille-Metz. Salut Jibo.
Salut Flora, salut coach, bonjour à toutes et à tous.
Salut Jibo.
Allez, le coup d'envoi dans quelques instants de ton match. Tiens, on va déjà partir sur les compos des deux équipes. Il y avait quelques absents, hein, du côté du LOSC notamment.
Ouais, des petits changements, mais il y en a qui est important, qui va intéresser coach, parce que c'est un joueur qu'il aime bien. Il sera sur le banc. Chevalier, ça je sais que tu l'aimes bien aussi, dans le but lillois. Gudmundsson qui va prendre la place d'Ismaili, puisqu'il avait un petit problème physique et il est sur le banc, le Brésilien. Alexandre et Yoro, la pas de surprise. Thiago Santos, parce que Diakité à droite, c'est encore un peu juste. Ben Taleb, on pensait voir Benjamin André, et ben Benjamin André est sur le banc. Et je sais, coach, tu aimes beaucoup de joueurs et ça nous surprend.
C'est pas seulement moi, c'est quand même le gars en plein cœur de l'organisation de Lille.
Il y a aussi le côté corse, hein, c'est pour ça aussi que je te branche sur Benjamin André. Zegrova, Yazid, chez Cabella, Jonathan David. Donc c'est très offensif, hein, côté lillois. Du côté Metz, alors que le coup d'envoi va donner par être les joueurs de l'Aslo Bologna. Oukidja, bien sûr, dans le but. Udol, Kandé, Traoré, Kouao en défense. En milieu récupérateur, Jean-Jacques Camara. Et puis devant, Sabali, Jalo, Vanden, Kerkhoff et Elissor en pointe. Voilà, deux équipes qui sont plutôt bien. Hein. Deux victoires de suite pour les Messins. T'as un succès à Lorient la semaine dernière, 3-2. Et puis les Lillois qui sont sur une série de 11 matchs sans défaite. Et puis une pelouse, écoutez, elle a pu respirer, être chouchoutée pendant 3 semaines. On a l'impression, en tout cas visuellement, qu'elle est beaucoup mieux. Je sais pas si c'est votre avis, mais voilà, on verra l'avis parce que c'est la petite guéguerre ces derniers temps entre Olivier Létang et la métropole européenne de Lille qui est propriétaire du stade, avec aussi Eiffage, c'est un peu compliqué, qui gère l'exploitation de la Décathlon Arena, stade Pierre-Mauroy, si on veut être complet. C'est parti.
Tu l'es.
Depuis 20 secondes, 0-0 bien sûr. Les Lillois qui ont déjà récupéré le ballon avec Angel Gomez. Hein, donc je vous le disais, hein, ça sera un peu plus offensif avec Angel Gomez à la place de Benjamin André qui est sur le banc. Alors ça, j'aimerais bien savoir si c'est un choix tactique.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est quoi? Il est mis au repos un petit peu. Il y a des échéances à venir évidemment pour les Lillois avec la Coupe d'Europe aussi. Mais c'est vrai que là quand même, c'est un peu étonnant de le voir sur le banc aujourd'hui. Hein.
Ouais, c'est le capitaine. Je suis pas sûr que ça lui plaise, hein, parce qu'il aime bien, c'est un compétiteur et il aime bien.
Il a joué quasi tous les matchs en plus.
Alors, il était suspendu à Lyon dimanche dernier. Bon, il a joué le match de Coupe d'Europe à Ljubljana, hein, attention avec les doigts déjà dans la surface de réparation avec Rémi Cabella. Peut-être le centre à venir, non, il préfère s'appuyer, non, il va tenter le centre, il cherchait Yazice, mais intervention de la défense messine. Oui, il a joué contre Ljubljana jeudi soir, alors c'est vrai, dans une pâte aux joueurs, hein, on se plaignait de la pelouse ici, mais là-bas c'était, je sais pas si vous avez vu là.
Bah, le terme est bien choisi, ouais. On épongeait avec les serviettes, ouais. C'est que là vraiment on arrive à un stade
exceptionnel, franchement du jamais vu. Et pour l'instant les Messins qui essaient de repartir au niveau défensif. On rappelle aussi que le toit est fermé puisqu'on a eu pas mal de neige depuis ce matin et que l'avantage de ce stade c'est qu'on peut fermer le toit, et c'était le cas depuis hier. Ils ont anticipé les responsables du stade, et donc on a des conditions vraiment optimales pour jouer. Le seul petit regret c'est qu'on voit quand même des gradins assez dégarnis, hein. On est à 32-33 000 pour un match où Lille peut faire un joli coup. En cas de succès, ce serait le deuxième consécutif. Et puis surtout.
Mais après, il fait froid à Lille aussi, quand même.
Oui, il fait froid. Non, mais je te rassure,
à Paris, il fait froid.
On est quand même à pas loin des. Voilà, on doit être à 1 degré dans le stade, mais il n'y a pas de vent. C'est ça, en fait, le secret. Quand t'as pas de vent, franchement, c'est déjà pas mal. Hein.
On sent le spécialiste là, Jibo.
Oui. Ah oui, mais, tu sais, quand t'avais des matchs à Boulogne-sur-Mer, stade de Libération tout en haut, c'était.
Ça se
souffle. C'était dur. Allez, les Messins sont à l'attaque. Récupération lilloise avec Ben Taleb pour Kabela. Ils vont essayer d'emballer le match avec Jonathan David qui a retrouvé le chemin défilé. C'est dernière contre Lyon. Et c'est lui a fait un grand bien aux Canadiens. Et il suffit de dire ça qu'il s'écroule. Il n'y a pas de faute. Estime l'arbitre de la rencontre, monsieur Gaël Angoula. Et pour l'instant, un rythme un petit peu tranquille, coach. Hein, voilà, avec une blessure, avec un joueur messin. Il me semble que Traoré a balancé.
L'équipe de Metz, quand même. Bon, ouais. On n'en parle pas. Mais...
Surprenante, presque. Hein.
Bah, oui.
Surprenante.
Moi,
hein.
C'est ce que fait Bologna. On a pratiquement le même âge. Mais je suis plein d'admiration. Moi, je ne serais plus capable.
Non, mais c'est vrai, je suis sûr qu'il y en a bien un club qui va te rappeler coach à un moment.
Non, mais pour 4 ou 5 matchs de la fin, le sprint final, le sauvetage, oui. Mais...
Toute une saison
ouais. Toute une saison, non. C'est sincèrement, plus de patience.
Ah, mais aujourd'hui, c'est. Le métier d'entraîneur, c'est quand même quelque chose. Moi, je les admire parce que c'est vraiment. Il faut être très bon en com. Alors là-dessus, coach, franchement, là-dessus, tu te balades, donc t'as besoin de personne d'autre. Mais c'est vrai c'est vrai que la gestion au quotidien.
C'est pas une question de me balader ou pas de balader. On a chacun des qualités et des défauts. Et quand je vois ce qui se passe et qu'on n'est pas au courant dans pas mal de clubs, que le métier d'entraîneur, c'est un métier totalement différent en fonction de l'endroit où on est ou en fonction de quelle situation on est.
Ben oui.
Je te donne un exemple. Tu prends une équipe à l'intersaison, tu fais le recrutement avec ton directeur sportif, ton président, c'est une chose. Tu la prends en cours de saison, après une quinzaine de matchs, tu débarques avec des joueurs qui ont perdu confiance et tout ça. C'est un autre métier. Tu fais le métier d'entraîneur avec un effectif pour construire tes victoires. Ok, tu fais le métier d'entraîneur avec un effectif pour jouer le maintien et pour détruire plutôt les victoires de l'adversaire. Et ça, j'ai pas l'impression que tout le monde soit au courant, ce qui est quand même regrettable.
Ouais, en tout cas, gros boulot effectivement de l'Asto Bologna avec les Messins qui restent sur 4 matchs de suite sans défaite.
71 ans, t'as pas voulu donner ton âge.
À 6 mois près, on a le même âge.
Allez, mettons le score pour toi, Jivo, du côté de
0-0, 5 minutes de jeu, et pour l'instant, on s'ennuie un petit peu quand même.
Oui, allez, on va se laisser tranquillement le temps de rentrer dans ce match de Ligue 1, effectivement, et on va revenir sur le multiplex qui avait lieu un peu plus tôt, que vous avez suivi évidemment sur RMC. On vous attend au 32-16, supporters, venez participer avec nous, avec coach, on attend vos questions et puis vos réactions surtout. On va revenir déjà sur la victoire de Monaco. Coach, ça va pas te faire plaisir face à Montpellier, 2-0 pour les Monégasques. On a avec Maxime Tillet.
Dans Monaco-Montpellier, je suis à 55.
Ouais, c'est dur pour toi. On a avec Maxime Tillet qui a commenté ce match pour RMC. Salut Max.
Bonjour Flora, bonjour Roland, bonjour à tous.
Salut.
Monaco, toi que tu suis au quotidien, ça a été un match tranquille pour eux. Ils se sont fait peur hein, quand même à certains moments, mais c'est vrai que le rouge aussi des Montpelliérains a changé les choses. Hein.
Ouais, ça a mis fin au suspense, on va dire, hein, des Monégasques qui se sont imposés sans vraiment forcer leur talent, sans montrer une quelconque grandeur, classe dans le jeu qu'on a peut-être pu voir en début de saison, mais qu'on retrouve moins ces dernières semaines. Mais ça a suffi tout de même pour s'imposer 2-0 avec Minamino et Ben Yedder pour marquer. Mais tu le disais, Flora, il y a quand même eu des grosses frayeurs. Hein. Au Parc des Princes, il y a eu beaucoup de cagades derrière et les Montpelliérains n'en ont pas profité.
Montpelliérains, quand ils jouent à 10, même à 10, ils ont été dangereux. Ils ont joué il y a 3 jours. Ils ont des joueurs blessés. Donc, je pensais que la victoire de Monaco allait être beaucoup plus facile.
Ouais, on a un auditeur qui est avec nous, un supporter de Monaco qui est avec nous au 32-16. Salut Abdes, merci d'être avec nous dans l'Intégral Foot.
Salut tout le monde.
Toi le supporter monégasque, est-ce que tu as été convaincu par la victoire de ton équipe? On disait qu'il y a eu quelques frayeurs quand même aujourd'hui. Hein.
Ouais, beaucoup de frayeurs, surtout en première mi-temps où je pense que Montpellier doit revenir au vestiaire avec au moins un but. Mmh. Ils ont pas mal d'occasions, nous derrière, comme depuis le début de saison, c'est porte ouverte. Deuxième mi-temps, il y a eu plus de maîtrise. Et moi je retiens 3 choses, c'est que Golovin, super joueur.
Ouais.
Content de l'avoir gardé jusqu'ici, hein, techniquement, il a été énorme. Zakaria aussi, que je trouve super classe avec le ballon, qui perd pas un ballon, un jeu de corps super. Et derrière Singo, qui vraiment tient la baraque, même si derrière on n'est pas.
Zakaria, toi qui le vois plus souvent, tu penses que c'est quoi son meilleur poste?
Ah bon, moi je le veux en 6, moi je le veux au milieu de terrain.
D'accord.
Là, avec l'équipe actuelle, avec l'effectif actuel, il peut nous servir derrière, Mais si à l'avenir on est amené à recruter un défenseur ou deux, il faut qu'il reste au milieu de terrain et avec Fofana il fera la doublette quoi.
Ouais.
Bon, c'est l'idée en tout cas dans la tête d'Adi Hutter avec un effectif au complet. Denis Zakaria, il a été recruté pour jouer au milieu de terrain. C'est d'ailleurs à ce poste-là qu'il l'a eu. Hein. Ils se connaissent, Adi Hutter et Denis Zakaria. C'est la troisième fois qu'ils travaillent ensemble dans trois clubs différents.
Ouais, c'est rigolo.
Ouais, aujourd'hui, il y avait Youssouf Fofana qui était absent de la feuille de match. Il était suspendu au Parc des Princes et cet après-midi, il était malade. Et donc, c'est Zakaria qui a plutôt brillé au milieu, associé à Camara.
Bon, Abdes, supporter Monégas qui est avec nous au 32-16. Pour terminer avec toi, Abdes, la saison de Monaco, hein, vous êtes troisième de Ligue 1. Ça avait très débuté très fort pour vous. Il y a un petit coup de moins bien, puis ça va, ça commence à rerouler maintenant.
Ouais, ça commence à rouler. Après, il ne faut pas oublier que quand même, on a pas mal d'absents. On perd Caio Henrique, qui est un super joueur et qui va nous manquer dans l'animation offensive, hein, parce que sa patte gauche nous a porté vraiment un nombre d'occasions énormes. On a aussi Mbolo, donc on a pu remplacer avec Balogun, que d'ailleurs je trouvais ce soir n'a pas fait un mauvais match, même s'il marque pas son but, je trouve qu'il a vraiment apporté devant, il a fait un travail énorme, il n'a pas pu être servi dans des super conditions, et il met un but refusé où on voit vraiment tout le talent du buteur qu'il a. Faudra voir, je pense.
Ouais.
Je pense que le podium ça le fera. Je vois pas qui pourrait nous passer devant.
Mais bah, on va voir ce que fait lui aussi aujourd'hui parce que ça talonne.
Ouais, mais malgré tout, comme je disais, derrière, il y a beaucoup d'interrogations et il va falloir vraiment recruter cet hiver. Ouais.
Bon, merci beaucoup Abdes d'avoir été avec nous en tout cas dans l'intégral foot. On vous attend, hein, les supporters au 32-16. Coach, on va parler un petit peu de Montpellier. On va écouter, tiens d'ailleurs, Michel Darzakarian, le coach montpelliérain qui est en conf actuellement.
On l'a très bien exécuté. Je trouve que les joueurs l'ont bien exécuté, oui. Bah, j'en sais rien.
Michel Darzakarian qui part de l'attaque
Montpellier. Il y a un peu de fatigue pour certains, il y a d'autres. Après, marquer des buts, c'est le plus dur, hein, au football. Hein. Marquer des buts, c'est le plus dur. La confiance, tu l'acquiers à travers le geste que tu fais et l'agressivité que tu mets pour marquer.
Parlant de gestes, le pétard, je crois qu'il a été sur la tête de tout le monde.
Ah oui, parce qu'un match que tu gagnais, ben c'est oui. Clermont, finalement tu le rejoues, tu fais un partout, tu as des suspendus, tu as des blessés.
Tu as des blessés, tu as de la fatigue avec le calendrier qui est totalement.
Ah oui, ils ont joué trois matchs, hein, évidemment.
Différents. Celui-là, pour la Noël, j'espère qu'on va lui faire un beau cadeau. Hein.
Ouais, parce que là, la série, en plus, ça fait seulement 2 points sur les 5 derniers matchs.
Avec un point de pénalité.
Eh oui.
Alors en plus, ouais, c'est vrai que ça coûte cher ce match.
Il n'y a plus qu'un point d'avance sur Lorient qui est barragiste.
Ben oui.
La dynamique, elle est vraiment pas bonne. Et là, le calendrier qui arrive, c'est la réception de Lens, le déplacement à Metz. Bon, Metz, attention. Et ensuite, il y a la réception de Marseille. Tout ça d'ici la fin de l'année. Donc ça va s'enchaîner et il va falloir prendre des points pour pas se faire trop peur côté Montpellier.
Ouais, ça va être tendu jusqu'au bout, de toute façon. Merci beaucoup, Max, d'avoir été avec nous pour revenir sur ce Monaco-Montpellier. On a Marco, supporter montpellier, qui est avec nous au 32-16. Salut, Marco.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Tu nous as entendu un petit peu sur Montpellier. Est-ce que toi, tu es inquiet en vue du maintien cette saison? Ça va être chaud. Hein. On sait qu'il y a deux descentes, hein, donc les places sont chères. Hein.
Ouais, tout à fait. Surtout quand on sait que le dernier, c'est Lyon. Et que quand tu as Lyon dernier du championnat, bon, mais tu te dis qu'à tout moment, ils vont bien se réveiller un jour ou l'autre. Donc ça fait un petit peu peur. D'habitude, à cette période-là, on voit toujours un dernier du championnat où on dit, allez, c'est bon, il y a déjà une place qui est faite. Il n'en reste plus qu'une autre. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, je sais que coach Courbis, pour l'avoir connu à Montpellier, c'est un superstitieux et que je pense que moi aussi je le suis un peu cette année.
On a un accord avec Loulou que de notre vivant, bon, et là il est parti avant moi, que de notre vivant, on ne voulait plus voir Montpellier en deuxième division. Hein.
C'est ça, mais tu sais, coach, tu vois que les planètes ne s'alignent pas cette année, on le voit avec. Malheureusement, des histoires qui nous pourrissent un peu.
Tout allait bien, saison, là, jusqu'à ce pétard, tout allait bien. C'était Montpellier, c'était plutôt l'outsider.
L'outsider, ouais. Oui. Oui, c'est vrai que le début de saison n'était pas si mauvais que ça, bah oui.
Mais bon, on a commencé la saison, je ne sais pas si vous rappelez, on n'a que 3 victoires hein, quand même au jour d'aujourd'hui. Ouais. Rappelez-vous, on a commencé notre championnat avec une pelouse catastrophique qui nous a fait perdre des points à domicile très rapidement cet été avec ce fameux champignon. Ensuite, le fameux super intelligent supporter qu'on a qui a jeté ce pétard, eh ben, il te met le grain, comme il dit, dans la chaussure.
Oh, lui, il a pas
derrière,
jeté un champignon.
Avec Mamadou Sakho, ça ne se passe pas tous les jours de voir ce genre de choses à Montpellier. Ouais. Tu vois. Là, tu prends encore un carton rouge, Kouyaté, tu as 3 matchs qui arrivent, Lens à domicile, je ne suis pas certain qu'on prenne des points, tu vas à Metz ou Metz.
Des blessures emmerdantes qui, c'est pas des blessures pour 8 jours.
Tout à fait.
Ouais, t'as l'impression qu'il n'y a pas les choses positives, quoi.
Notre dynamiteur, malheureusement, tu vois, c'est encore un détail, mais comme par hasard, fait, malheureusement, hein, sans faire de jeu de mots, la Jordanie, on sait ce qu'ils sont en train de connaître. Donc, Tamari, on sent qu'il a pris un coup dans le casque aussi avec les événements dans son pays. Enfin, il n'y a rien qui s'aligne, quoi. Il n'y a rien qui va. Le stade qu'on nous promet depuis des années, on sent que Laurent, il commence à lâcher prise, il n'en peut plus. Le stade, on ne le verra jamais. Enfin, voilà, tout est. Il y aurait Loulou là, il te dirait. Hein, ça sent la, je vais pas dire le mot à l'antenne, mais ça sent
pas bon, quoi.
L'année 2, voilà.
Ça marche. Bon, bah, bon courage, Marco. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, dans l'intégral foot. C'est un plaisir de t'avoir pour cette défaite donc, de Montpellier 2-0 sur la pelouse de Monaco. Allez, le temps, le score en Ligue 1, ce match qu'on suit, Jibo, dis-nous. On sent les Lyonnais un petit peu plus à l'attaque quand même face à Metz. Hein.
Ouais, mais pas un tir depuis le coup d'envoi. Hein. 13 minutes de jeu, 0-0, domination lilloise et déjà un joueur qui est sorti côté Messin.
Mais ouais, comment blessé. Il s'est blessé?
Quoi, oh, bah, je pense qu'il ça.
Tout seul, il a on a l'impression, non?
Une sorte de petit claquage derrière la cuisse, tu sais. On l'a vu arrêter une première fois et il a tenté de continuer, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est Joseph Ndoukidi qui l'a remplacé.
Vous avez vu le nombre de, et ça fait depuis des années et que c'est comme ça, le nombre de blessures qu'il y a à partir du mois de novembre.
C'est, je crois que c'est la période qui.
Ah, je pense. Ouais. Je me rappelle quand j'étais joueur. Et quand j'étais entraîneur, ce mois de novembre était
c'est dur.
Catastrophique.
Le changement de température.
Et vivement, il fallait arriver à la trêve parce que les muscles ont quand même beaucoup travaillé.
Allez, le temps, le score, Jibo.
0-0, bientôt le quart d'heure de jeu.
Allez, il est 17h20, l'intégral foot revient tout de suite sur RMC avec coach Courbis. On continue de suivre ce Lille-Metz, de revenir sur les matchs de 15h. On vous attend au 32-16 pour venir participer avec nous. Puis dans quelques instants, on va revenir aussi sur la victoire du PSG un petit peu plus tôt face au Havre. A tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Flora Moussi.
On est de retour avec coach Courbis. Il est 17h23 sur RMC. L'intégral foot continue. On vous accompagne avec Jean Baumel du côté de Lille face à Metz. Une belle occasion, ça y est, pour le LOSC.
Ouais, une tentative de Cabella qui a été contrée, mais la phase de jeu est intéressante avec notamment Zegrova. Voilà, ça bouge un petit peu, hein. 18 minutes de jeu, 0-0. Bon, il n'y a qu'une équipe sur le terrain, c'est Lille, mais voilà, on sent que Metz est venu pour prendre au moins un point et tenter le petit contre. Voilà, qui permettrait pourquoi pas de faire le hold-up, hein, parce que là dans le jeu, je peux vous dire que Lucas Chevalier, il n'a pas touché beaucoup de ballons, le gardien lillois. Mais c'est vrai que ça, il n'y a pas un rythme assez dingue. Ils n'arrivent pas à enflammer la partie.
Et même si il a beaucoup le ballon, il n'y a pas beaucoup d'occasions. Il n'y en a eu qu'une, je trouve.
Oui, c'est ça, exactement.
Ouais, dès qu'ils arrivent dans la surface, après,
on va dire
ça,
une situation chaude,
un peu,
parce que c'est même pas une occasion. Quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Pour l'instant, on est un peu. Alors, il y a peut-être une explication. Il y a eu ce match compliqué à Ljubljana dans un stade et surtout une pelouse.
Le déplacement, quoi. Ouais.
Déplacement, en plus, physiquement, jouer dans de la gadoue, c'est quand même pas, c'est pas évident. J'imagine que tu dépenses plus d'énergie avec un ballon qui est tout le temps ralenti.
Ouais, ça doit leur faire tout drôle d'avoir un ballon qui circule normalement.
Ah bah oui, non.
Faut se réhabituer aussi, t'es marrant toi.
Ah c'est ça, c'est ça. Attention.
Merde, parce que un ballon qui roule.
Attention, parce que ils étaient pas contents de la pelouse ici, hein, donc.
Ah bon, ils ont trouvé le moyen.
Avant, j'avais posé la question à Paulo Fonseca hier en conférence de presse, puisque bon, je vous le disais, hein, c'est tendu entre et Olivier Létang par rapport à plein de choses au niveau du stade, mais notamment tout est venu de la pelouse avec la Coupe du Monde de rugby. C'est vrai que Lyon et Marseille ont changé leur pelouse, pas Lille. On dit qu'à Marseille et à Lyon, ils ont fait le nécessaire. nécessaire avec, en négociant avec l'organisateur de la Coupe du Monde de rugby, qu'à Lille, ça n'a pas été fait. Donc, bon, voilà. Petite tension, mais du coup, on répète souvent que la pelouse n'est pas bonne, mais ça fait 3 semaines qu'il n'y a pas eu de match ici. Et elle a une meilleure allure, on a l'impression que ça va mieux, mais voilà, on va peut-être nous dire qu'elle était quand même pas bonne. Je sais pas, on verra à la fin du match. Mais pour l'instant, le jeu, lui, n'est pas terrible, terrible, avec un dégagement Lukidja, d'ailleurs, ancien Lillois, hein, formé au LOSC, Alexandre Lukidja, qui a roulé sa bosse pas mal en bas dans l'Est, hein, essentiellement Strasbourg et Metz, le ballon qui sort, la touche pour les Lorrains avec Vandenkerkhove qui va peut-être faire cette remise en jeu, et non, ça c'est pour se donner en retrait vers Traoré qui balance. Ouais, c'est pour l'instant très moyen. Là, peut-être la belle, beau contrôle là, de la part de Yazice contre la poitrine, il s'appuie sur Kabela qui recule et donne son ballon qui circule en défense. Pour l'instant on est loin du compte, même si Lille est une équipe en forme. Lille pour l'instant n'arrive pas à montrer grand chose. 20 minutes de jeu, 0-0.
Allez, un peu plus tôt, le PSG hein, s'est imposé dans la douleur, là aussi, hein, sur la pelouse du Havre. Victoire 2-0 quand même. On va revenir sur tout ça avec Arthur Perrault qui était au stade. Coach, salut Arthur.
Salut Flora, salut coach.
Salut. Bonsoir Arthur. À tous.
Bon, il y a eu le nul décroché in extremis à Newcastle cette semaine. On n'est pas forcément non plus rassuré par la performance des Parisiens aujourd'hui. Hein. Ça a été un peu laborieux aussi. Hein.
Oui, surtout quand on repense au début de match parisien avec deux événements assez compliqués pour le club de la capitale à surmonter, à commencer par l'expulsion de Gianluigi Donnarumma qui a forcé la sortie de Bradley Barcola et l'entrée en jeu d'Arnaud Tenas, on va y revenir. Et puis dans la foulée, la blessure de Fabian Ruiz touché à l'épaule. Alors évidemment que tout de suite on s'est empressé de prendre des nouvelles du milieu de terrain espagnol. On sait que il a un rôle capital maintenant dans le milieu de terrain parisien, l'absence là aussi sur blessure de Warren Zaïre-Emery. Selon nos informations, la bonne nouvelle c'est qu'il n'y a pas de fracture pour le joueur du PSG touché à cette épaule dans un duel aérien, qu'il passe actuellement des examens à l'hôpital pour connaître la nature exacte de sa blessure. Le Paris Saint-Germain a précisé dans un communiqué qu'il souffre précisément d'une luxation de l'épaule droite, là encore c'est sans fracture.
C'est assez grave comme blessure ça.
Et en effet, une luxation, la tendance est à ce que l'on ne revoit pas Fabian Ruiz avant la fin de l'année, ce qui voudrait dire qu'il s'ajouterait à la liste des forfaits au milieu de terrain du côté parisien pour le match décisif mardi prochain. Ce sera du côté de Dortmund en Ligue des Champions.
Il y a eu déjà une étape un petit peu avant tes commentaires, c'est la composition des équipes une fois de plus. Donc là c'est sûr que si tu es adversaire de Paris Saint-Germain, tu es surpris là, avant même que le match commence.
C'était une composition un brin expérimentale, notamment la charnière centrale Moukile Danilo Pereira. Pourquoi ? Parce que aussi Skriniar a débuté finalement cette rencontre sur le banc. Il avait un peu de fièvre voilà, hier soir au moment d'arriver ici au Havre. Donc Luis Enrique a dû adapter ses plans, comme là aussi la présence dans le couloir gauche de Carlos Soler qui a vécu un début de match très compliqué. D'ailleurs, les Havrais l'ont bien compris, puisque en première mi-temps, ils ont très clairement insisté sur ce côté gauche de la défense parisienne.
Ouais, tu parlais justement de ce carton rouge aussi pour Donnarumma. Coach, je vais même pas te demander ce que tu penses de ce geste, parce que là, pour le coup, il y a rouge 100 fois. C'est un peu osé ce que fait le gardien italien. Mais Arthur, on va quand même parler de son remplaçant, parce que c'est un peu lui l'homme du match finalement aussi, l'homme dont tout le monde parle aujourd'hui.
L'homme du match, peut-être l'homme de demain.
Des prochains, bah oui aussi, c'est ça qu'il faut voir. L'Espagnol, ce gardien espagnol qui avait encore jamais joué avec le PSG, hein, faut le rappeler. Hein.
Oui, et c'est vrai que c'était un moment un peu particulier pour lui. On le rappelle, Arnaud Tenas, gardien de 22 ans qui arrivait...
Voilà, frappe de Zegrova. Voilà la première action et la première frappe cadrée dans cette rencontre à la 23e. Elle est boxée par Alexandre Krija qui va concéder le corner à Zegrova. On savait que depuis un petit moment, il est en forme. Et on a l'impression que le danger ne peut venir que de lui. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, c'est lui qui allume le premier pétard de la...
C'est Super Walter, le gardien.
Pourquoi il la boxe comme ça,
Ouais, c'est... Bah, écoute... Attention, avec on va suivre le corner, avec la remise de Zegrova pour Kabela qui lui rend la politesse, avec le ballon pour Angel Gomez, le centre peut-être à venir de Kabela, le centre, deuxième poteau et la tête de Traoré qui dégage, mais ça va vite revenir. Attention avec Goodmanson, il y a une bonne phase là pour les Lillois avec le centre de Goodmanson, le deuxième poteau, la reprise, ah ça passe au-dessus, c'est Kabela qui indique l'arbitre. Oui, il y avait une faute, il y a une bousculade et je pense que Udol a été bousculé dans la surface et c'est pour ça que l'arbitre qui est intervenu sur Angoula, alors qu'il va avoir un changement de maillot pour Alexandre Lukic.
Il a 3 ou 4 t-shirts en même temps là. Faut que tu nous expliques. Gibo, il fait tellement froid qu'il a mis 3 couches sous le maillot.
Pourtant, il y a de la région, Alexandre Lukic.
Bon, bah... Et puis à Metz, il fait méga chaud, on le sait.
Ben oui, c'est ça. Bon, on était...
0-0, 24 minutes.
On était avec Arthur Perrault qui nous parlait d'Arnaud Tenas, hein, le remplaçant de Gianluigi Donnarumma pour les prochains matchs aussi à venir, évidemment, du coup. En Ligue 1,
oui,
au moins.
Oui, puisque Donnarumma va être suspendu automatiquement une rencontre après ce carton rouge. Donc, on va revoir Arnaud Tenas face à Nantes. Je vous le disais, jeune gardien de 22 ans, formé au Barça. C'est d'ailleurs là que Luis Enrique l'a rencontré et qu'il l'a fait venir dans la foulée cet été au Paris Saint-Germain, un peu dans l'indifférence la plus totale d'ailleurs, puisqu'il arrivait en tant que numéro 3, voire numéro 4 du PSG. Et sauf que bien, Keylor Navas souffre des lombaires depuis plusieurs mois. Et donc, c'est lui qui a fait son entrée en jeu aujourd'hui. 7 arrêts au total pour lui. C'est le plus grand total pour un joueur entré en jeu en Ligue 1 depuis 2016. Et c'est sûr qu'il a déjà conquis les supporters parisiens. D'autant plus, Flora, qu'il est déjà presque bilingue, Arnaud Tenas. C'est ça qui nous a un peu impressionné en zone mixte dans la foulée de la rencontre.
Exactement. Tu sais quoi, on va l'écouter justement, Arnaud Tenas, en français. Tu l'as dit.
21 ans.
21 ans, exactement. Puis on va écouter juste 22. Derrière aussi. 22. C'est important, t'arrives ouais. À cet âge-là. Et juste derrière, ouais. On va écouter Luis Enrique, son coach aussi, qui le connaît très bien, tu l'as dit.
Pour moi, c'est facile. Je travaille toujours. Je suis prêt pour tout. J'ai parlé avec l'équipe. L'équipe a donné avec moi très, très confiance pour jouer. Et moi, travailler toujours pour ce prêt.
Je connais très bien Arnaud. C'est un gardien qui s'adapte très bien aux idées de jeu. Dans sa situation, c'est un grand professionnel. À cause de ce malheur avec l'expulsion de Donnarumma, il a répondu présent et il a démontré son niveau.
À le niveau qu'il tient.
0-0, hein, toujours en Ligue 1 face à Metz. Est-ce qu'il va y avoir péno ou pas, Gibo?
Il a indiqué le point de pénalty. Hein, ils sont pas contents, les Lillois.
Pour Metz, hein,
on... Alors on va revoir, il y aura peut-être la VAR, mais franchement, ce serait cher payé pour les Lillois, mais on va voir. Faute de Yoro, on va revoir l'action. Alors c'est une passe où il se fait surprendre. Hein. Yoro récupère un ballon, il ne voit pas et dans son dos.
Une fois de plus, cette relance à la mode.
Voilà, exactement. Ouais, pour moi,
il n'y a pas faute.
Il récupère le ballon, coach, t'as raison, mais il emmène un petit peu le joueur quand même avec la.
Et Euro dit non, mais en tout cas, il y a un message qui est pris à tirer.
Il y a 50 pénalty par match.
Mais là, je pense que voilà, il y a discussion pour l'instant avec Monsieur Angoula et les Lillois surtout. Lui, il a été direct hein, dans sa décision.
Oui, il a indiqué tout de suite le point de pénalty. Ouais.
Voilà, avec Fonseca qui n'en revient pas. Et voilà, des Lillois qui dominaient un petit peu plus dangereux. Mais l'un des rares contre Messa. Enfin, c'est même pas un contre, hein, c'est mauvaise relance, comme disait coach.
Il y a une tacle sur le ballon.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Ouais. On revoit les images. En tout cas, si on n'est pas d'accord, c'est que. C'est ça le problème. Et après, si on n'est pas d'accord déjà entre nous, c'est que la décision, elle n'est pas aussi flagrante que ça. Et lui, il a indiqué tout de suite le point de pénalty, hein, encore une fois. Puis là, c'est bon, on se dirige vers le pénalty, c'est bon.
Sans aller vérifier si des fois, il n'est pas plus. Il se soit pas trompé.
Bah, peut-être que dans le camion, on lui dit qu'il y a pénalty. Hein,
c'est ça, mon cul. Ah, ben oui, d'accord.
Peut-être, j'imagine,
mais c'est ça qui m'ennuie. Pour moi, la VAR doit
aider. Tu penses que l'arbitre devrait à chaque fois aller voir les images?
Mais la VAR, pour moi, ça doit être un compagnon de l'arbitre pour l'aider à décider. C'est pas des gens dans un camion qui décident.
Allez,
à ta place.
On va suivre le pénalty là. C'est Elissor qui va s'élancer face à Chevalier. Et il arrête Chevalier! Chevalier qui arrête le pénalty. Pas méga bien tiré, mais on va surtout mettre en valeur la prestation du gardien. Parce que, tu sais, des fois, quand je me dis, souvent, parce que c'est pas les stats, mais. Quand il y a un pénalty qui n'est pas vraiment mérité, souvent soit il est arrêté ou au-dessus. Je sais pas.
C'est un pourcentage.
Non, mais bon, voilà. C'est...
Mais pour les superstitieux, donc c'est la justice, je fais partie. J'y pense souvent à ça.
Ouais, mais je suis un peu comme toi sur ce genre de scénario.
Et là, si je te dis que c'est fort possible que ce soit le tournant du match, ce qui vient de se passer là,
avec le but qui arrive derrière, tu sais.
Pas obligatoirement derrière, mais que une victoire de Metz. Avec des regrets de ne pas avoir ouvert le score avec ce pénalty. Une victoire de Lille, je vous dirais, bien sûr.
Mais ça, qu'il y avait une opportunité énorme, donc à la exactement 27e minute, donc ce pénalty stoppé par Lucas Chevalier devant Elissor. Et Chevalier qui marque des points, hein, c'est un gardien. Alors il y a des bruits comme quoi
le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui également, mais pour l'instant il y a un
Arthur confirme. Arthur Perrault qui est toujours avec nous confirme.
Là tu sais même si on sera pas.
Et là c'est un coup dur pour les supporters lillois s'il part, parce que c'est l'un des rares ch'tis. Il est adoré et adulé par tous les supporters. Voilà. C'est, puis bon, c'est un très très bon gardien. Donc ça serait si ça arrivait, ça serait, alors à Paris ou ailleurs, hein, ça serait un coup dur pour le club maintenant.
Bon, puisqu'on parle de gardien 0-0 toujours entre Lille et Metz, on va terminer avec Arthur Perrault pour nous parler du PSG. On parlait justement donc d'Arnaud Tenas qui a remplacé Donnarumma. Arthur, oui. Du coup, pour la suite maintenant, et évidemment ce rendez-vous en Ligue des Champions face à Dortmund, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un petit roulement dans les gardiens ou pas du tout?
Alors c'est vrai que forcément que
la question va se poser.
Exactement. Alors certains diront que c'est totalement improbable. Il peut y avoir une concurrence. C'est une possibilité. Il va évidemment falloir surveiller la performance de Arnaud Tenas samedi prochain. Encore une fois, ce sera au Parc des Princes face à Nantes. Mais s'il dégage autant de sérénité comme cela a été le cas ce midi au Havre, s'il est autant à l'aise des pieds que des mains comme ça a été le cas ce midi, eh bien peut-être qu'il pourra enfin relancer une concurrence chez les gardiens, puisqu'on le rappelle, jusque-là Donnarumma n'a jamais vraiment été inquiété, surtout que à chaque fois qu'il faisait des erreurs que ce soit à la main ou au pied, eh bien dans la foulée en conférence de presse d'après match, il était défendu ardemment par Luis Enrique. Là Enrique a, entre les lignes, une nouvelle fois pris sa défense en disant que c'était la faute du dernier rempart, c'est-à-dire Danilo Skriniar qui était devant lui. Sauf qu'à un moment, eh bien, il va y avoir derrière lui un gardien qui va se montrer. C'est le cas d'Arnaud Tenas aujourd'hui.
On verra ce que ça donne évidemment pour ce rendez-vous face à Dortmund. Merci beaucoup Arthur. Et Dortmund, salut, puisqu'on Arthur. En parle justement, on les suit en ce moment même en Bundesliga du côté du Bayer Leverkusen avec Julian Bubnov. Salut Julian. Et c'est
salut,
parti
Florent.
Fort hein, dans
salut,
ce match
coach.
De Bundesliga.
Ouais,
là.
Salut à tous. C'est parti très fort à la Bayer Arena cet après-midi, puisque Dortmund vient d'ouvrir le score sur la pelouse du Bayer Leverkusen. C'est une petite surprise quand même, parce que le Bayer Leverkusen est premier de Bundesliga avec aucune défaite pour le moment. 11 victoires en 12 matchs.
Extraordinaire, mais cette équipe de Dortmund est quand même surprenante.
Et en ce moment, elle est très en forme, l'équipe de Dortmund, et c'est Julian Ryerson, l'arrière gauche allemand, qui vient d'ouvrir le score donc sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Ça fait 1-0 après 7 minutes de jeu.
Tu suis un petit peu toute l'Europe pour nous, Julian, parce qu'il y a un choc aussi en Angleterre entre City et Tottenham. Et là aussi, c'est parti.
Voilà, c'est parti. Aussi une surprise sur la pelouse de l'Etihad Stadium, et c'est Tottenham qui vient d'ouvrir le score par l'intermédiaire Doug Minson. Donc 1-0 pour les hommes d'Ange Postecoglou après 7 minutes de jeu. Là aussi, c'est une surprise parce que City doit absolument gagner pour essayer de se rapprocher d'Arsenal, sur qui il compte déjà 4 points de retard.
Oh la frappe de... Oh, ça passe au-dessus pour David. La tentative tout d'abord de Yazidze qui était déviée. Ça revient dans les pieds de David. Et comment fait-il pour la mettre au-dessus?
C'est tout simplement qu'il a rajouté une action à sa collection.
Ah ouais, non, mais heureusement qu'il avait marqué la semaine dernière, parce que ça aurait été encore un truc de fou. Mais là...
L'enchaînement,
le poteau, mais c'est incroyable que ça rentre pas même. Oh, le poteau qui tape.
Qui rebondit sur le gardien.
Sur Ogija. Et derrière, Jonathan David qui... il est en forme par contre le Turc. Ah non mais David, ce qu'il rate, c'est incroyable. Il est dans la zone des 6m50, il tire au-dessus, même lui il se prend la tête dans les mains. Tellement c'était incroyable de rater ça à la 33e. Bon bah c'est un peu l'équivalent du penalty tout à l'heure.
Ouais, c'est ça, chacun son tour.
Voilà. C'était plus facile à rater que de mettre au fond. 0-0. 33 minutes de jeu entre Lille et Metz.
Allez, 17h39 bientôt sur AMC. Ça bouge sur toutes les pelouses hein, dans l'intégral foot. Restez bien avec nous. On revient tout de suite avec Coach Courbis pour à la fin de cette première période entre Lille et Metz. À tout de suite.
RMC Intégral Foot.
Florent Moussi. 17h41 sur RMC. On est de retour avec Coach Courbis dans l'intégral foot pour suivre ce Lille-Metz. On suit aussi le foot européen, évidemment. On va vous tenir informé des scores un peu partout sur les pelouses. Jibo, on est toujours avec toi du côté de Lille où décidément
attention,
ça se
passe. Attention avec Zazidze, la frappe, elle passe au-dessus. Ah, il est au point de pénalty quasiment. Ça passe au-dessus.
C'est David qui les a contaminés.
0-0. Hein, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, le drapeau s'est levé. Pourquoi? Il y a peut-être une raison. Est-ce qu'il y a une position de hors-jeu?
Ouais.
Bah non, pas de hors-jeu. La remise.
Alors là, non.
Bah non, franchement, je vois pas ce qu'il y a. Je comprends pas.
Bon, non plus.
Non, pour moi, c'est un dégagement en 6 mètres. Pour Alexandre Oukidja. Et en tout cas, encore une énorme occasion. Au moins la cadrer. Ça passe au-dessus. Il est au niveau du, presque au niveau du point de penalty. Bon, l'action d'avant était pire, hein. Le poteau de Yazinche qui rebondit sur le mollet d'Oukidja, ça rentre pas, mais David est dans la zone des 6 mètres et il la met au-dessus. Et on rappelle surtout aussi que Metz a eu un penalty à la 27e, penalty stoppé par Lucas Chevalier sur la tentative d'Elissor. Il voit l'attaque avec Zegrova qui va obtenir le corner. Le troisième de cette rencontre, alors qu'on va entrer, pas encore, ouais, dans les 5 dernières minutes, on est à la 37e. Et Don Zegrova qu'on, voilà, qu'on sent vraiment le plus dangereux avec Yazice, mais sur le côté droit ça penche beaucoup. À gauche on a plus de mal, hein. Goodmanson, les montées aussi notamment de Cabella. Alors je comprends pas leur façon de tirer les corners, là ils sont toujours à deux. Tout à l'heure il a tiré direct et je vois pas pourquoi Zegrova reste là, coach. Franchement, voilà, il va pas participer. C'est parti au deuxième poteau. Dégagement de la tête d'un défenseur de Metz. Et le ballon qui revient en faveur des Lillois. Une nouvelle tête. C'est Elissor qui balance loin devant. Et les Lillois qui vont rapidement récupérer la balle. 0-0, 38 minutes de jeu. Domination lilloise. Attention avec un contre intéressant là pour les Messins. Petit tirage de balle devant sur la tourelle. Oula, Ish! Ouh, l'intervention du Goodmanson là. Sur le Messin. Il s'agissait d'Elissor.
Ah, l'arbitre, il a dû dire
pas vous le à chaque fois.
Ouais, mais celui-là, il était peut-être plus flat que tout à l'heure.
On va revenir en train de se dire.
En plus, quand je vous les donne, c'est pour les rater, donc les tomber.
Ah non, mais là, franchement, je pense que c'est cadeau, non? Enfin, je faudrait revoir.
On n'a pas revu, ouais, on n'a pas revu les images, mais.
Il y a plus penalty là que tout à l'heure.
Ouais, c'est ce que disait Gibo, bah oui. Et ouais, c'est fort probable, hein. Mais on n'a pas revu les images encore, parce que le ballon n'est pas sorti.
Parce que le jeu est toujours en cours et que les Messins ont le ballon, mais il y a eu ce contre et Goodmanson, donc, sur Elissor. Bah, dans un premier temps, il lui tire un peu le maillot, bon, pas méchamment, mais puis derrière, bah, il le fait tomber, hein.
Ouais, il se fait emporter par la feinte en plus, donc, ouais.
On va voir en tout cas la suite de l'action.
On dira ça, Gibo.
Ah, okay. Si on le voit, avec les Lillois qui sont à l'attaque, on est sur l'action, là, ils sont à 3 contre 3 avec David. David qui va tirer tout seul, la frappe de David, et ça passe au-dessus.
Ah bah,
il ne frappe pas, allez, 18 mètres de la cage d'Oukidja, ça passe au-dessus. La 39e, 0-0 des Lillois, très maladroit.
C'est quand même un petit peu décourageant de voir cette maladresse de David.
Alors, on revoit l'action.
On plaisante, qui peut contaminer.
Il y a un tirage de maillot qui est quand même.
Mais juste avant. Ouh. Mais ouais, non, mais c'est. Ah oui. C'est incroyable.
Mais les deux fois, en fait, il y a un premier tirage de maillot, et puis après, il se fait prendre dans la feinte, et il entraîne par
terre. Il fait quoi le VAR là-dessus?
Mais déjà, mais c'est comme tout à l'heure. Déjà,
non, mais là,
l'arbitre, il a quand même vu le tirage de maillot. Alors peut-être il a dit c'est léger, mais qu'il aille voir à la VAR, et après la VAR aide l'arbitre du centre à prendre des décisions.
Attention, les Messins qui sont à l'attaque avec un ballon dans le dos, c'est mal dosé, ça va sortir en 6 mètres alors qu'un joueur lillois est au sol. Il me semble que c'est Ben Taleb qui a pris un coup. Le jeu va être arrêté de toute façon. Non, c'est Angel Gomez. Et on est à la 40e, 0-0 pour l'instant, entre Lillois et Messin.
Un petit mot de première ligue avec toi, Julien, parce que ça a répondu du tac au tac, hein, du côté de City face
c'est
à Tottenham.
C'est parti très très fort à l'Etihad Stadium. Et juste 5 minutes après l'ouverture du score d'Ungminson, c'est encore le pauvre Coréen qui vient mettre un but contre son camp sur un coup franc qui avait été tiré de la droite vers la gauche. Donc un partout après 14 minutes de jeu. Et on a également vu un gros raté de la part d'Erling Haaland, un raté quand même qui lui ressemble assez peu. Ouais. Pour le joueur qui a marqué quand même 14 buts cette saison en première ligue.
Il a fait une David.
Ouais, c'est ça. Tout le monde est contaminé en fait. L'affiche ce soir.
Sur la perte de balle là d'Alexandro et ça va revenir en défense. Attention peut-être avec un ballon profondeur pour Elissor. Il s'est fait surprendre encore Yoro. Elissor dans sa phase de réparation. Il va mettre le danger. Il donne en retrait. C'est récupéré par
Kikidi.
Le ballon contré une nouvelle fois. Ils ont toujours le ballon, les Messins. Les Messins qui pourraient créer la sensation avec un ballon centré. Avec une frappe et un arrêt de la part de Chevalier qui s'est bien interposé encore une fois sur le centre dangereux là de la part du Messin. Il me semble que c'était Jalot qui a centré fort côté gauche. 4 minutes encore à jouer en première période, 0-0, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise côté lillois parce que les Messins font trembler par moment la défense lilloise.
Ouais, effectivement, franchement, si on reste à 0-0, c'est vraiment qu'on n'a pas de chance parce que vu tous les opportunités, on va dire ça comme ça, qu'il y a eu dans ce match, les ratés aussi, ça promet. L'affiche ce soir à 20h45, c'est au Vélodrome. Marseille-Rennes, l'avant-match dès 20h. Vous en avez l'habitude dans l'afterlife avec Jean-Louis Tour en direct du stade. On va prendre déjà la température avec Flo Germain qui sera au commentaire ce soir pour RMC. Salut Flo!
Salut Flora, salut à tous!
Salut Flo!
4 matchs de suite sans victoire en Ligue 1 pour l'OM Flo. Ce serait bien aujourd'hui quand même de gagner pour repasser dans cette fameuse première partie de tableau. Hein.
Oui, c'est peut-être l'un des matchs les plus importants de la saison pour Marseille. En tout cas, Paul Lopez disait qu'on était dans une période cruciale avec cet enchaînement de 3 matchs à la maison. Donc le premier, bon, il y a eu des sueurs froides, notamment en défense. On l'a vécu ensemble jeudi soir. Il y a eu cette victoire 4-3. A-t-elle relancé les Marseillais? En tout cas, elle a eu un effet positif, c'est que elle a un peu repoussé la grogne. Il y avait une inquiétude quand même en interne avec tous ces matchs à domicile, si jamais ça se passait pas bien dès le match contre l'Ajax. Donc là, on aura, bon, à part la zone ultra qui est à huis clos ce soir pour une sanction liée à des fumigènes, on aura un Vélodrome qui sera évidemment acquis à la cause des Marseillais. Mais quand on regarde le classement, tu as raison de le rappeler, Flora, les Marseillais vont pas bien et Rennes n'est pas loin. Donc l'une des deux équipes laissera forcément des plumes, et s'il n'y a pas de match nul, il y aura vraiment un malheureux ce soir, d'autant plus que Lorient a pris un petit point dans les dernières secondes. Donc s'il y avait par exemple une défaite marseillaise, il ne serait qu'à 2 points de la place de barragiste.
Ça, c'est fou,
donc la pression serait évidemment énorme avant l'autre gros match de mercredi contre Lyon. Donc si jamais Marseille s'incline, le Marseille-Lyon, on pourra peut-être évoquer un choc des Olympiques pour le maintien. Donc on en est là. On ne le souhaite pas aux Marseillais, mais en tout cas c'est un match très important pour savoir si les bonnes perfs en Ligue Europa, en tout cas les bons résultats, ont permis un petit peu à Marseille de retrouver des couleurs véritablement, et aussi en Ligue 1.
Ouais, c'est fou, ça coach quand même, quand on entend la Flo nous dire tout ça, ouais, à 2 points de place de barragiste pour l'OM, c'est quand même fou de retrouver Marseille dans cette situation.
Mais oui, avec un calendrier en plus de l'OM, donc qui vont jouer ce soir. Et mercredi oui, contre Lyon
avant d'aller à Lorient,
avec un jour de moins de récupération et un match de plus trois jours avant contre l'Ajax. Donc c'est sûr que on peut être inquiet.
Ouais, on peut être inquiet pour l'OM. Quel compo ce soir, a priori Flo? J'imagine que Pierre-Emerick Aubameyang va être là, face à grosse paire face à l'Ajax. Oui.
Ce serait une grosse surprise qu'il ne débute pas. Le 11 probable, il y a une petite incertitude à gauche de la défense, puisque Lodi n'était pas à 100%. En tout cas, il a fini le match très fatigué jeudi. Il a même été remplacé. Donc Paolo Lopez dans le but, Klos à droite, Murillo ou Lodi à gauche, Jigo Mbemba pour la charnière centrale. On verra si Veretout a récupéré, parce que il n'a pas participé hier à l'entraînement. Donc ce sera ou Veretout ou Unai. Puis le reste, a priori, il n'y aura pas de grande surprise. Compte Dobia à ses côtés. Trio Ndiaye, Sarr et Harit en soutien de Pierre-Emerick Aubameyang, normalement titulaire. On ne change pas un homme qui vient de mettre un triplé dont un retourné acrobatique. Coach, t'aurais jamais fait ça, toi non plus.
Ah, mais donc, moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est
le salto.
Ah oui.
Mais
chaque fois. Parce que t'as essayé dans ta télé après, c'est ça?
Ah non, mais gaffe, moi, j'ai essayé quand j'étais jeune, et je suis mal retombé, et donc.
C'est dangereux, ouais.
Ah non. Ça, sincèrement, si un de mes joueurs se blesser gravement à la suite de ce message, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Tu le reblesses derrière.
Ah oui, je pense. J'aggrave sa blessure.
Merci beaucoup, Flo.
Allez,
on se retrouve ce soir, exactement, tout à l'heure avec Jean-Louis Tour dès 20h dans l'After Live pour ce Marseille-Rennes. La fin de la première période du côté de Lille face à Metz. Gibo, est-ce que le compteur va être débloqué dans cette fin de première période?
Eh bien, écoute, on a beaucoup de temps additionnel, donc peut-être 4 minutes. On vient d'y entrer, 4 minutes de supplémentaire, 0-0. On rappelle quand même les deux faits marquants. C'est tout d'abord le pénalty stoppé par Lucas Chevalier sur la tentative d'Elissor. Et puis cette occasion à la 32e, incroyable, hein, la frappe impeccable, hein, sur le poteau de Yazice qui rebondit sur le mollet d'Oukidja. Le ballon qui ne rentre pas dans le but mais est pas loin de Jonathan David dans la phase de réparation, alors qu'il y a Zegro. Va l'arrêt! Oh, bel arrêt de Oukidja là. Franchement magnifique. Là, la frappe était cadrée là du Kosovar et ça donne un corner pour les Lillois. Et l'occasion de David, donc totalement raté dans la surface dans la zone des 6 mètres qui passe au-dessus. La corner, le quatrième peut-être sur coup de pied arrêté pour débloquer la situation dans cette rencontre où les Lillois dominent, hein, mais peuvent se faire surprendre par des Messins, car tout à l'heure, certes, il y a eu un pénalty, mais il y en aurait pu surtout en avoir un deuxième qui n'a pas été sifflé. Angel Gomez, voilà, Pardou qui vient et ça rentre. Yazice, est-ce qu'il est hors jeu? Non, il fait que ça. Ça fait 1-0. Cette fois, le ballon tire poussé par Ekidja.
Le même but que Nantes marque contre Nice.
Ah ouais, lui, Yazice, la belle frappe tout d'abord d'Angel Gomez.
Il y a un joueur qui le couvre.
Angel Gomez qui frappe. Ekidja, surpris. Frappe puissante. Il repousse le ballon dans les pieds de Yazice. Et le Turc, hein, qui devait partir cet été, lui qui est en fin de contrat, eh bien, il fait du bien, justement, parce qu'il manque un attaquant à Lille, hein, faut le rappeler, il n'y a pas de doublure à Jonathan David. Bah, il fait de temps en temps office attaquant, et il l'a fait, et là, il est en confiance, l'international turc. Yazice, qui permet à Lille de mener 1-0, et quand on regarde le classement, eh bien, ça permet à Lille, eh bien, de rester, de remonter un peu sur Nice, hein, mais de rester un petit peu collé juste derrière Monaco. Ouais. Donc, on sent que les places européennes, alors c'est pas joué, mais je pense qu'on pourra compter sur Lille et notamment pour, voilà, peut-être sur le quatuor.
Ouais, écoute, on n'est pas étonné finalement que ça vienne de Youssouf Yazice, parce qu'on l'a senti, hein, sur toutes les bonnes opportunités de Lille,
absolument.
Il était là.
Et puis bon, on en parlait tout à l'heure. Peut-être que de temps en temps, on voit des choses logiques. Le 1-0 possible avec le pénalty, ben, il s'est transformé en 0. Hein.
Il sent les coups, hein, coach. T'as vu, Gibault, hein.
Mais oui,
c'est l'expérience.
Mais c'est clair, c'est clair. Non, mais c'était le scénario qu'il avait dit tout à l'heure. Et ça se profile pour l'instant avec des Lillois.
Mais on a envie de dire que c'est presque un petit peu dur pour Metz, malgré tout, qui a eu ce pénalty raté.
Le deuxième pénalty possible.
Même si au final les opportunités étaient plus pour Lille, mais c'est vrai que
Lille a été très maladroit. Ouais. Dans le jeu, Metz n'a pas inquiété vraiment Chevalier. Hein, et ils ont eu un pénalty, ils auraient dû en avoir un deuxième surtout, ou un seul au final, parce que le premier était peut-être un petit peu délicat à juger. Mais sur les contres, de temps en temps, les Lillois se faisaient peur, mais les Messins n'en ont pas profité. Après, dans le jeu, il n'y a pas photo, hein, si Lille est plus à droite devant le but avec un Jonathan David et qui va rentrer dans la surface de réparation, il va essayer de venir tout seul. Il remet sur Yazice avec Zegrova, le crochet Zegrova qui en fait un peu trop et il bute sur la défense. Ah, le Kosovar qui a été gourmand là dans
les crochets. Ils vont pas avoir 50 d'occasions comme ça.
Ah non, mais tu vois,
on a l'habitude un peu avec Zegrova.
De faire le break psychologiquement à 30 secondes de la mi-temps.
Ah bah c'est il reste
il,
encore
il doit mieux faire Zegrova là quand
ah
même.
Ah bah carrément il doit armer la frappe bien avant, hein. Je pense qu'il voulait se frayer un chemin il voulait personne devant lui, mais il y a un moment, voilà, tu frappes fort et ça peut être dévié et ça rentre, hein. C'est incroyable. En tout cas, heureusement qu'il mène 1-0 parce que Fonseca était en colère, j'imagine. Attention, peut-être la dernière action. Jonathan David dans la surface de réparation. David, crochet, que va dire monsieur Angoula? Penalty pour les Messins. Avec pour les Lillois, pardon.
Ouais. Et là, donc, si on peut continuer pénalty, à présenter les choses comme
faute sur
comme
David, présente,
donc le 1-0 possible pour Metz peut être un 0-2 maintenant.
Et l'entraîneur de 71 ans, Laszlo Bologna, n'est pas content. Ah, tu vois pas le scénario horrible.
Ne t'inquiète pas, je ne vais pas lui piquer sa place.
en tout cas, c'est terrible. Franchement, pour les supporters messins, c'est. En l'espace de 2 minutes, ça va peut-être faire 2-0 juste avant la mi-temps. La faute de Candé, on revoit
l'arbitre. Il a dit c'est
Paul contre Paul, il le balance un peu. Ouais. Bah, quand tu vois la faute de tout à l'heure, non, c'est vrai.
Si y a pénalty là, comme je t'ai dit, il y en a 50 de pénalty.
On va pas lui porter la poisse.
Ouais, c'est ça. On va voir si ta théorie est bonne, mais du coup, Gibo.
Ouais, et c'est David qui va tirer. Hein,
aïe.
Oh, David.
Allez, Jonathan David, face à Alexandre Okidja. L'opportunité, peut-être. Pas de tuer le match, mais pas loin, parce que à 2-0 à la mi-temps.
La comme ça,
ouais, ça ferait très très mal derrière la tête, comme dirait coach, avec Okidja qui, zigzag sur sa ligne de but. C'est parti! Et c'est dedans! C'est bien tiré! Et ça fait 2-0! Et ça fait son deuxième but en deux matchs pour Jonathan David après celui marqué à Lyon. Voilà. Lille qui a eu un premier mi-temps un peu compliqué, très maladroit, mais au final ça fait 2-0.
Et là, le but que rate Zegrova comme commentaire. On disait justement que
faudrait pas regretter,
c'était dommage parce que rentrer 2-0 avec ce but à 30 secondes, mais il a quand même été marqué 30 secondes après sur penalty. Là, c'est sûr que le petit break est fait, ça va être compliqué pour les Messins, c'est une évidence ce que je dis.
Voilà, ça fait 2-0 et monsieur Angoula, bon, qui va certainement siffler à la fin de cette première période d'ici.
Ça va lui faire du bien aussi à Jonathan David, tu vois, dommage de suite où il marque en Ligue 1. Ça fait du bien.
Ça lui fait 4 buts depuis le début de saison. Hein. Il est très loin. L'année dernière, il en a mis 24. Alors, justement, on disait 24 buts la saison dernière, dont 10 pénaltys. Ouais. C'est quand même un exercice où il est plutôt pas mal. Mais voilà, il a un peu de retard à l'allumage. Il va peut-être enquiller en deuxième partie de saison. Mais en tout cas, là, Lille aussi, au niveau du classement, du goal average. Lille qui n'a que 2 défaites cette saison. Voilà, est à 1 point de Monaco, à 3 points de Nice. Ouais, il faudra peut-être compter sur les Lillois, coach, pour une place en Ligue des Champions.
Hein. Ah oui, ils ont leur mot à dire. Hein.
attention avec les Zegrova, c'est pas fini. Zegrova, la remise, ça va être dégagé par la défense messine. Monsieur Angoula qui regarde son chrono. Et c'est la mi-temps sur ce score de 2 à 0. Deux buts inscrits dans le temps additionnel. Yazic est 45 millième plus 2. Et puis sur pénalty, Jonathan David 45 plus 3. Ça fait donc 2 à 0 pour l'instant en faveur du LOSC, qui confirme son bon état de forme, hein, parce que là on est sur un 12e ouais. match sans défaite et peut-être encore un succès après celui de Lyon et en Coupe d'Europe en milieu de semaine. Et Lille qui reste 4e et voilà, qui s'accroche à Nice, Monaco et Lille pour le moment.
Merci beaucoup Gibo, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période, il est 17h58. Bientôt, l'intégral foot revient tout de suite avec coach Courbis pour la seconde période, évidemment. Juste un point, tiens, Julien, sur les scores aussi en Première Ligue et en Bundesliga qu'on suit avec toi.
Toujours un but à zéro pour le Borussia Dortmund sur la pelouse du Bayer Leverkusen, le but de Rierson, et un partout entre les Citizens et Tottenham à l'Etihad Stadium.
Dortmund, on le rappelle, prochain adversaire du PSG en Ligue des Champions lors de la dernière journée. Allez, il est 17h58, on revient tout de suite dans l'intégral foot avec coach Courbis sur RMC.
RMC intégral foot. RMC intégral foot.
Florent aussi. Il est 18h02, on est retour dans l'intégral foot avec coach Courbis sur RMC. On a la pause de Lille-Metz 2 à 0 pour le LOSC et tout de suite on va parier sur cette seconde période.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Et avec notre expert en paris sportif, Julien Bouvenov. Ça va Julien?
Ça va Florent?
Il y a des yeux partout parce qu'il suit le foot européen aussi, tu vas nous dire ça dans quelques instants. Mais d'abord les codes pour cette seconde période entre Lille et
Metz. Comme vous en doutez maintenant, après 2-0 à la pause, Lille est évidemment favori. Hein. 1-0-2, 27 le match nul et 80 la victoire messine. Moi, je vois quand même les Messins marquer en seconde période. Ils ont quand même eu beaucoup d'occasions en première, avec bon, pénalty ou pas pénalty, ça je laisserai Roland en décider. Mais Metz, donc les deux équipes qui marquent, c'est coté à 2,45, ça me tente beaucoup. Et puis même, je vois même Metz marquer le troisième but de ce match.
Okay.
C'est à 3,65.
Moi, je donne deux scores exacts, le 2-1 et le 3-0.
Très bien. Alors, le 2-1, il est coté à 7,50. Le 3-0, il est coté à 3,40. Et puis, l'un ou l'autre, c'est coté à 2,50.
Merci beaucoup, Julien. Tous les paris à retrouver sur le site rmcsport.fr.
Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et Julien, tu suis aussi hein, le foot européen pour nous, évidemment. Et City qui vient de prendre les devants hein, face à Tottenham.
Ouais, c'était, c'est assez logique au vu de la physionomie du match que City prenne l'avantage. C'est un but de Phil Foden cette fois-ci à la 32e minute de jeu avec un superbe jeu en triangle entre Jérémy Doku, Julian Alvarez et Phil Foden qui vient justement tromper Vicario à bout portant. Donc ça fait 2 buts à 1 pour les Citizens après 34 minutes de jeu.
Jérémy Doku qui est toujours aussi performant, un coach avec Manchester City, elle s'apprête dans cette saison de Première Ligue. C'est impressionnant.
Ah oui, c'est quand même un grand point d'interrogation puisque on n'était pas content de lui, paraît-il, du côté de Rennes, alors que du côté de...
Bah, Pep Guardiola, il a l'air de bien aimer. Hein.
Ben oui, ok.
Ça fonctionne bien pour lui. On a la pause de ce Lille-Metz, 2 à 0 pour le LOSC, et on a Cédric qui est supporter lillois avec nous au 32-16. Salut Cédric.
Salut Flora, bonsoir coach. Salut.
Merci Cédric d'être avec nous Cédric. Qu'est-ce que tu penses de cette première période? Ça a mis du temps à démarrer hein, quand même hein, pour vous, pour les Lillois, et finalement cette fin de première mi-temps qui se termine bien pour vous.
Ouais, tout à fait, ça a mis du temps à démarrer. Après ça, plutôt bien terminé sur cette première mi-temps. Je pense tout de suite que pour essayer d'anticiper les demandes sur l'arbitrage, le fait que Lille mène au score n'est pas illogique, c'est plus le fait qu'on mène 2 à 0 qui est là un petit peu plus bizarre. Mm. Bon, après, il y a autant pénalty sur David qu'il y avait pénalty sur le Messin, donc là-dessus, c'est sûr, on va pas se plaindre de notre côté, c'est très bien pour Lille qu'on mène 2-0. Mais on va dire que 1-0 ou 2-1 ça aurait peut-être été plus juste vu la physionomie de la première mi-temps.
Ouais, on imagine que tu as dû être rassuré aussi quand tu as eu finalement ce but de Yazic, parce que on vous a senti effectivement, notamment Jonathan David, rater plusieurs occasions. Il y a eu ce poteau aussi de Yazic juste avant. Tu avais l'impression que ça viendrait jamais ou t'y as cru toi?
Non, ça a tout du match piège.
Bah oui.
Ce qu'on se disait, c'est surtout que Metz montrait un visage qui n'était pas forcément attendu. Peut-être après, on avait un petit peu la confiance. Par exemple, sur normalement, le pénalty qui aurait dû être Messin, ça part... pardon, pas le pénalty qui aurait dû être Messin. Sur l'arrêt de Chevalier, sur le pénalty, ça repart d'une relance un petit peu bizarre, puis d'un échange entre les défenseurs. C'était une erreur défensive qu'on avait un petit peu perdue, qu'on faisait pas mal en début de saison, qu'on avait un petit peu perdu, ce qui faisait qu'on avait retrouvé quand même une bonne assise défensive ces derniers temps. Et puis bah là, voilà, dès qu'on se refait à faire des relances un petit peu dangereuses, bah ça se paye tout de suite. Donc voilà. Après, on a eu la chance d'arrêter le penalty, mais comme je dis, je pense que pour l'instant, mener au score, c'est mérité. Après, c'est un petit peu trop large et ça masque quand même le fait que Metz fasse une très bonne mi-temps pour l'instant.
Bon, t'es objectif, c'est bien. Un supporter objectif, c'est incroyable ça.
Ouais, bravo.
Bravo. Bon, comment tu sens la seconde période? Comment tu sens la seconde période, Cédric?
Je pense que Lille va conserver l'avantage. Après, je vois plus un 3-1. J'écoutais un petit peu ce que vous disiez. Je vois en effet Metz peut-être bien nous en mettre un, mais je pense que Lille arrivera aussi à marquer, donc je vois bien un 3.
Bon bah super, bon match à toi en tout cas Cédric, merci d'avoir été avec nous dans l'intégrale foot. Il est 18h07, on revient tout de suite avec coach pour la seconde période. Justement, est-ce que les pronos vont être les bons? On va voir ça dans quelques instants, restez bien avec nous sur RMC.
RMC intégrale foot,
Flora Moussi.
18h11, on est de retour dans l'intégrale foot sur AMC avec coach Courbis. On vous accompagne jusqu'à 19h. Après, ce sera Jean-Christophe Drouet et Marion Bartoli pour Bartoli Time avec un invité de marque aujourd'hui, Tony Nadal, l'oncle et ancien coach de Rafael Nadal, qui va nous parler du retour imminent à la compétition de l'Espagnol. Ce sera début janvier. On est à la pause du Lille-Metz 2-0. Donc, pour le LOSC, coach, comment tu vois cette seconde période là? Ça va reprendre dans quelques minutes maintenant. Est-ce que le LOSC a fait le plus dur? Tu penses qu'on va s'ennuyer là en seconde période ou ça reste ouvert?
On sait très bien qu'un 2-0 qui se transforme en 2-1, ben souvent ça démontre que le match n'est pas terminé, mais en fait ça fait rien. Comme il y a eu des moments très importants et des tournants de match, j'insiste sur ce pénalty raté ou raté, très bien arrêté par Lucas Chevalier, qui une fois de plus est un artisan important d'une éventuelle voire future victoire de son équipe.
Ouais, en tout cas, c'est bien parti pour le moment pour le LOSC, que t'en parlais hein, tout à l'heure aussi de cette équipe messine qui avait de belles qualités, hein, qui restait sur une belle série avec un Laszlo Bologna qui arrive justement à emmener cette équipe derrière lui. Est-ce que tu les vois potentiellement réagir? Ça paraît compliqué. Il n'y a pas eu d'occasion vraiment franche pour les Messins. Hein.
Vu ce qu'on a, parce que l'arbitre, quel qu'il soit, il sait très bien ce qui fait de bien et ce qui fait de moins bien. Le pénalty qui n'a pas été sifflé alors qu'il y a tirage de maillot, il le pousse et il voulait pas non plus qu'il étrangle pour siffler le pénalty. Ben je pense qu'à la moindre occasion, il y aura un petit avantage pour les Messins par compensation, ce qui me paraîtrait tout à fait logique.
Regarde, dans la foulée, ça l'a pas empêché de donner un pénalty plutôt généreux ou gentillet, on va dire, pour les Lillois malgré tout. Donc
oui, non, mais je pense à ça aussi. Ouais. C'est-à-dire le pénalty non sifflé.
Ah, tu penses qu'il a en tête, il sait que le pénalty qu'il a donné à Lille.
Ils sont ensemble dans les vestiaires avant de revenir pour la deuxième mi-temps. Ben ils analysent, ils ont les images, ils savent ce qu'ils ont fait de bien et de moins bien.
Ça va lui mettre un petit peu la pression. Ça va reprendre dans quelques instants du côté de Lille. Juste le temps de faire un point aussi sur ce qui se passe en Europe avec toi, Julien, et Manchester City, notamment face à Tottenham dans ce choc de Première Ligue important hein, au classement aussi, on le rappelle, pour les Citizens.
Et Manchester City qui revient provisoirement à un point d'Arsenal, deuxième de Première Ligue. Manchester City qui mène sur sa pelouse 2-1 face à Tottenham. Des buts d'Hugminson contre son camp. Hugminson avait d'abord ouvert le score pour Tottenham, après il avait marqué contre son camp, et un but exceptionnel de Phil Foden, donc ça fait 2-1 pour les Citizens. On approche de la mi-temps, et en Allemagne à la Bayer Arena, le Borussia Dortmund mène toujours 1-0 sur la pelouse du Bayer Leverkusen, un petit peu contre le cours du jeu. Leverkusen qui continue d'attaquer le but de Grégoire Köbel, mais qui n'arrive toujours pas pour l'instant à trouver la faille. Toujours 1-0 pour Dortmund.
On s'intéresse évidemment au Borussia qui sera le prochain adversaire du PSG lors du dernier match de poule de la Ligue des Champions pour obtenir cette qualification pour les huitièmes de finale. On va retrouver Gibo du côté de Lille. Il y a du changement pour Metz, hein, je crois, avant cette seconde période.
Oui, on va voir qui est sorti. Il s'agit de Vanden Kerkhoff et l'entrée en jeu d'Assoro. Voilà, donc je sais pas si c'est pour blessure ou choix tactique, hein, mais c'est vrai que voilà, c'est reparti. On rappelle le score 2-0 pour Lille, hein, 2 buts dans le temps additionnel. Yazice Youssouf, de son prénom, le Turc qui fait du bien au LOSC hein, cette saison. Franchement, il devait partir, on parlait du côté de Nantes, et finalement il est resté et il a bien progressé. Il a séduit et surpris Paulo Fonseca qui comptait pas sur lui. Et puis Jonathan David sur penalty à la 45e plus 3 minutes, et Lillois qui repart avec la balle au pied. Il n'y a pas eu de changement de la part du coach portugais, perte de balle. C'est reparti donc depuis 30 secondes. Lille pour l'instant tranquille, 2-0 au tableau d'affichage.
On va suivre évidemment ce Lille-Metz en fil rouge dans cette intégrale foot. On revient aussi, vous en avez l'habitude, c'est le rendez-vous de votre dimanche. On revient sur les matchs de 15h avec vous, supporters. On vous attend au 32-16 pour venir participer avec nous, poser vos questions à coach, nous dire comment vous avez vécu votre match aussi. On va revenir sur la très belle victoire de Brest à Clermont 3-0 avec Xavier Grimaud qui a commenté ce match pour RMC. Salut Xavier.
Salut Flora, salut Roland.
Salut Xavier.
Quelle démonstration brestoise aujourd'hui, encore une fois, j'ai envie de dire, face à Clermont.
Oui, clairement. Alors c'est vrai que d'habitude les Brest-Clermont, bah ça fleure bon le match un peu tendu pour se maintenir. Et là, on a vu une vraie différence de niveau assez flagrante entre Brest et les Clermontois. Beaucoup d'intensité du côté de Brest et du jeu, hein, parce que les buts sont beaux. Alors il y a le penalty de Del Castillo, le deuxième but est superbe avec la volée de Mathias Pereira Lage. Mais l'action collective qui amène le deuxième but, elle est très très belle du côté brestois. Les Clermontois vraiment absents, un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais finalement il y aura ce doublé de Del Castillo. Donc les Brest. Toi, ils sont assez étonnants, Roland, impulsé par Éric Roy qui semble vraiment avoir mis la main sur son groupe. Un groupe qui vit très très bien et qui joue bien et qui est très 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 dur à jouer. Et qui aura un match en retard à jouer jeudi face à Strasbourg. Et imaginez que Brest batte Strasbourg à Francis Leblé, ce qui paraît pas non plus complètement inconcevable. Et ben Brest pourrait être cinquième au classement. De quoi peut-être donner des envies de saison un peu frisson. Alors j'ai posé la question à Éric Roy, évidemment. Roland, tu le connais mieux que moi encore, mais bon, il a évidemment temporisé en disant que pour l'instant il pensait avant tout à battre Strasbourg, mais qu'il était évidemment très content parce que son équipe faisait exactement ce qu'ils avaient prévu de faire lorsqu'ils entamaient leur match.
Je la trouve bien équilibrée. Tous les joueurs sont au courant de ce qu'ils doivent faire. C'est une équipe redoutable, pas facile à manœuvrer du tout. Et là, une fois de plus, on voit le boulot de son entraîneur, Éric Roy, et aussi de son directeur sportif, Greg Lorenzi, qui discrètement fait souvent de très très bonnes choses.
Ah, tu les vois
avec un groupe restreint. Avec un groupe restreint, oui. Il y a 15-16 joueurs. Voilà, ce qui fait que les remplaçants, comme disait Éric Roy,
il faudra rajouter au staff quelqu'un pour pouvoir faire des prières, qu'il n'y ait pas de blessés. Et s'il n'y a pas de blessés, je vois cette équipe, il y en a chaque fois une surprise en bas, voire même deux, et une surprise en haut. Outsider, si on peut appeler ça comme ça, je pense que cette année, c'est Brest qui est la surprise pour le haut du classement.
Avec un mot sur Clermont, en revanche, Flora.
Ouais, vas-y.
Inquiétant, les Clermontois, vraiment pas vraiment les attitudes d'une équipe qui doit se battre pour sa survie.
Alors, Pascal Gassien, c'est chaud pour Clermont aussi,
C'est très, très chaud. Surtout en première mi-temps, dit Pascal Gassien, il trouve que dans la deuxième, il y a eu de l'espoir. Bon, je pense que c'est un message public envers la presse. Je pense pas qu'il ait tenu ça avec ses joueurs. Alors, écoutez-le, justement, je l'ai interrogé sur le fait que Brest-Clermont, normalement, c'est des matchs tendus pour le maintien et que là, il y avait un écart énorme entre les deux équipes. Il veut quand même remettre un peu les choses au point, Pascal
Gassien. On est clair, je vous rappelle quand même qu'on est le plus petit budget de Ligue 1. Donc l'an dernier, ça tenait presque du miracle, même si je pense qu'on n'a pas volé ce qu'on faisait l'an dernier. Mais on est toujours le petit poussé de Ligue 1. On savait avant de recommencer que ça allait être dur. On espérait mieux, mais on savait que ça allait être difficile quand même. Il faut qu'on efface ce qu'on a fait l'an dernier et qu'on se remette un petit peu avec le bleu de chauffe et puis être meilleur, quoi. Être meilleur partout. On sait qu'on est capable de le faire, mais il faut s'y mettre maintenant.
Voilà, faut s'y mettre. Il a dit aussi peut-être que les joueurs doivent oublier la belle saison de l'année dernière.
Et même celle d'avant. Ils n'étaient même pas inquiets de la descente, alors que par rapport à leur budget, ils auraient dû l'être. Et là, ils sont tout simplement dans une situation de maintien, alors que ils étaient déjà sauvés la saison dernière, 3 mois avant la fin de la saison, alors qu'il y avait 4 descentes.
Ouais.
Donc il y aura Lille. Cette année, c'est tout à fait logique.
Et pour finir l'année, il y a de quoi trembler. Clermont-Lille, Marseille-Clermont et Clermont-Rennes. Voilà les trois matchs avant Noël. Donc là pour que Noël soit sympa au pied du sapin pour les supporters clermontois, va falloir vraiment que l'équipe se réveille parce que sinon ça peut être très très compliqué à la trêve hivernale.
Merci beaucoup Xavier. Il y a toujours 2-0 en Ligue 1 pour Lille face à Metz et on a Julien, supporter brestois, qui est avec nous au 32-16. Salut Julien. Est-ce que tu m'entends, Julien? Ouais, t'es là?
Oui, je suis là.
Ouais, super, Julien. Merci d'être avec nous. J'imagine que tu nous as un petit peu entendu là parler de ton équipe. Quelles sont tes ambitions, toi, pour cette saison? Tu commences à rêver grand ou pas?
Alors, écoute, moi je reviens du match, j'étais au stade là tout à l'heure, j'ai vu une équipe de Brest en tout cas sérieuse, bien appliquée, bien dans ses baskets. Alors, comme je dis à chaque fois, on reste quand même à notre niveau, mais effectivement, on peut peut-être commencer maintenant à rêver peut-être d'une place en Conference League, rien que pour le plaisir de jouer une fois l'Europe chez nous. Ce serait tellement beau. Après, c'est clairement en face, ils ont clairement des difficultés, c'est pas non plus simple. Mais Brest a montré, contre les gros cette année, qu'on était une équipe d'emmerdeurs, comme ça a été signalé, et qu'on a les moyens de faire chier beaucoup de monde.
Oula, tu augmentes les dialogues.
Oui, désolé, coach. Mais à un moment, il faut aussi dire les choses. Brest a été sérieux, a été appliqué. Il n'y a pas eu grand chose à jeter. Clairement, sur le match d'aujourd'hui, de ce que j'ai vu, il n'y a pas eu un joueur en retrait. Ils se sont tous montrés sérieux. Ça a été carré, ça a été appliqué. Le milieu de terrain avec Vismelou et Magnetti a été très très bon. Camara a fait un taf énorme.
Tout va bien pour toi.
Les attaques Pereira-Lage, Mounier se sont encore une fois trouvées. Je veux dire, et en plus avec une défense, avec Loco, Lala sur les côtés, Chardonnay, Brassi en défense centrale, et puis avec Marco en but, t'es peinard. Je ne vois pas. Honnêtement, sur le match, on a 15 points à prendre en décembre. On peut en prendre 12.
C'est vrai que tous les secteurs sont intéressants, complémentaires. L'équipe est bien équilibrée. Mmh. Et une fois de plus, tu sais l'importance que je donne au gardien de but dans une équipe de football. Je trouve très bon le gardien de Brest.
Ça sent bon en tout cas pour Brest en ce moment. Merci beaucoup Julien d'avoir été avec nous. Tu reviens du stade, on le rappelle, après la belle victoire de Brest 3-0 face à Clermont. Le score du côté de Lille, Gibo face à Metz aujourd'hui.
La 53e minute, 2-0 pour Lille. Les buteurs juste avant la pause, Yazice et Jonathan David sur pénalty.
Allez, les 18h22 sur RMC, on revient dans quelques instants dans l'intégral foot avec coach Courbis pour la suite de ce Lille-Metz. Et puis continuez de nous appeler au 32-16 pour venir participer avec nous. On reviendra aussi sur le match nul entre Toulouse et Lorient un petit peu plus tôt. On vous attend au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, intégral foot.
Florent aussi. Et 18h26, on est de retour avec coach Courbis dans l'intégral foot et on file tout de suite à Lille. Gibo, c'est bis repetita pour les dessins.
C'est incroyable. Je vais décrire ce qui s'est passé pendant la pause. Elissor dans la surface de réparation lilloise. Il est fauché par Lucas Chevalier. Pénalty flagrant, sans problème. Monsieur Angoula indique le point de pénalty. Et c'est un autre tireur, puisqu'ils avaient déjà raté un pénalty en première période, les Messins, avec Elissor.
Lucas Chevalier l'avait déjà arrêté.
Voilà.
On peut dire ça comme ça, surtout.
Elissor l'avait arrêté. Chevalier l'avait arrêté sur le tir d'Elissor. Et là, on change de tireur. C'est Ismaël Traoré qui tente sa chance. Et il arrête encore un pénalty. Lucas Chevalier, c'est incroyable. Bah, sa cote déjà elle est bien élevée, coach, mais là je peux te dire que voilà, on peut rajouter 4-5 millions d'euros sur un transfert. J'exagère, mais franchement c'est rare quand même, deux pénaltys arrêtés sur le même match.
Extraordinaire, mais sa sortie sur le deuxième pénalty, elle est quand même moyenne.
Ah oui, donc c'est Lamine Camara, j'ai confondu le 8 et le 18, c'est Camara qui a tiré le deuxième penalty et stoppé donc par Lucas Chevalier. On est à la 58e, on va suivre l'action lilloise, 2-0 toujours pour le LOSC avec Benjamin André qui est entré il y a quelques secondes à la place de Ben Taleb. L'accélération peut-être la déviation, la centre-tire de la part de Zegrova et on pensait voir une tête lilloise dévier ce ballon, notamment Jonathan David, mais c'est arrivé quasiment directement dans les gants d'Oukidja, bientôt l'heure de jeu. Lille mène 2-0 et surtout à un super gardien qui a stoppé deux pénaltys.
Ouais, une histoire de pénalty dans ce Lille-Metz.
Il y en a eu un pour Lille.
Bah oui, mais qui a été transformé cette fois-ci. C'est sûr que c'est assez incroyable. Il est 18h28, on est avec coach Courbis. On va revenir aussi sur les matchs de 15h. On vous attend évidemment au 32-16. C'est le rendez-vous du dimanche dans l'intégral foot. Il y a un dernier match dont on n'a pas parlé encore, coach. C'est ce nul dans le match de la peur entre Toulouse et Lorient. Et c'est Wilfried Templier qui est avec nous. Salut Wilfried.
Salut, c'était pas le plus flamboyant, c'est peut-être pour ça que vous, voilà, vous n'en avez pas encore parlé.
Si, on garde le meilleur pour la fin, figure-toi.
Non, mais c'est magnifique, là, cette victoire à 3 points, quand tu sais que tu as besoin de points, que tu as les 3 points, et qu'à la dernière seconde, un but t'enlève 2 points, c'est magnifique. Ah, je l'adore.
Tu l'attendais, celle-là, Wilfried.
Non, non, mais j'attends la victoire à 4 points, ça sera encore mieux.
Alors, pourquoi il dit ça, coach, aussi? C'est parce que le scénario, évidemment, sur ce nul, finalement, on a plus l'impression que c'est Lorient qui est gagnant que Toulouse, forcément.
Ah, effectivement. Non, mais d'autant que déjà le match sur l'ensemble n'était pas, je vous ai dit, flamboyant. Hein. C'était très poussif. Cette équipe de Toulouse, quand même, a beaucoup de difficultés en Ligue 1. Alors, on sait qu'elle a la Ligue Europa, qu'elle est en passe de se qualifier pour des 16e de finale, mais que d'autre côté, ils n'ont pas gagné depuis deux mois, depuis plus de deux mois en Ligue 1. Ça remonte début octobre, 1er octobre, face à Metz à domicile. Donc, c'était 6 matchs sans victoire. Et là, malgré ce match poussif, il y a un but miraculeux de Dalinga en deuxième mi-temps, la 71e.
Qui n'était pas titulaire au départ.
Non, qui n'était pas très content apparemment, qu'il l'a dit, voilà, qui se demandait pourquoi il était sur le banc, qu'il l'a dit au diffuseur. C'était Magri qui était titulaire à la pointe de l'attaque. Et puis, bah voilà, on les a, ces 3 points, tu l'as dit, coach, sont très importants. Il mettait Toulouse à 15 points, à hauteur de Rennes, ça donnait un peu d'air, sauf que, eh bien, c'est récurrent en plus, hein. Toulouse a quand même reculé, enfin, Lorient a poussé.
Je n'ai pas vu le but de Lorient.
Ah, c'est un mauvais dégagement dans la surface, une passe à Bamba Dieng qui est au point de pénalty, qui croise sa frappe et qui marque un but un peu pas gag, mais bon, évitable franchement pour les Toulousains à la 91e. Et voilà, et les Toulousains, on les a vus sortis de vestiaire, tous la tête basse, ils ont pris un coup sur la caboche. Le président Comolli est même venu parler dans le vestiaire, hein, dire que fallait justement ces dernières minutes s'appliquer, qu'ils pouvaient pas finir comme ça. Et voilà, le côté coup sur la tête, je vous propose de l'écouter avec le capitaine milieu de terrain Vincent Sierrot.
Ah, c'est clair que la déception elle est énorme. Je pense, comme j'ai dit, on a mérité la victoire. On a fait un match où on a dominé quand même Lorient. Et malgré ça, on prend pas les 3 points. C'est clair que t'es un peu dans une spirale négative. Donc il y a peut-être le doute s'installe un petit peu. Et c'est justement à ces moments-là que faut montrer du caractère. Faut moins chercher peut-être les beaux gestes, mais aller un peu casser le jeu et tout ça. Mais voilà, je sais que tous les joueurs de l'équipe sont extrêmement déçus. Et cette frustration, on va l'utiliser pour continuer à travailler, pour aller chercher des victoires sur les prochains matchs.
Ouais, 7e match de suite, hein, sans victoire pour le TFC. Ouais,
Nicolas
Hyssen
a dit, le défenseur central Nicolas Hyssen nous a dit aussi en sortant ce match-là l'année dernière.
Non, mais il faut qu'on leur mette Liverpool comme adversaire.
Ouais, ils se transcendent. On reste avec toi, Wilfried. On va juste vivre le coup franc pour Lille. Gibo avec toi.
On va décaler à droite. Il y a Zegrova qui peut, avec son pied gauche, la tenter direct. C'est un peu loin quand même. On a 26, 27 mètres. Petit signe de Kabela. C'est Kabela qui l'a mis dans la boîte avec une tête, celle d'Alexandro. Mais ça passe largement au-dessus de la cage d'Alexandro Kidja. Toujours 2-0 pour le LOSC, la 63e minute.
On est toujours avec Wilfried Templier pour revenir sur ce Toulouse-Lorient, un partout entre les deux équipes. C'était à 15h et on a Aaron, supporter du TFC, qui est avec nous et qui était au stade. Salut Aaron, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Tu as 11 ans, voilà d'où la petite voix qui nous accompagne aujourd'hui. Alors raconte-nous comment tu as vécu, toi, ce match nul depuis le stade. Comment tu l'as vécu?
Le TFC, déjà, ça manque de milieu de terrain. Et depuis qu'on a perdu tout notre milieu de terrain, à part Firenk qui est revenu, mais on a perdu du milieu de terrain. Reste a fait quelques arrêts, comme d'habitude. Après, pareil sur l'attaque, Dalinga, il est rentré, il a fait du bien, mais on revient trop vers l'arrière. Ouais. Enfin, on joue trop en défense.
Ouais. Est-ce que tu es inquiet, toi, ou pas?
De Vandenboomen, hein, et de Jägereux, peut-être, les deux milieux.
Au milieu de terrain, ouais.
Des Belges.
Est-ce que tu es inquiet pour ton équipe, Aaron, hein? Est-ce que tu as peur de descendre en Ligue 2 la saison prochaine?
Oui, absolument.
Ouais. Tu sens que ça va être chaud jusqu'au bout?
Ouais.
Il joue à Lyon, hein.
En plus, le prochain, ouais. Alors, duel pour le maintien, du coup, c'est ça qui est incroyable. Bon, merci beaucoup, Aaron, d'avoir été avec nous dans l'intégral foot. N'hésite pas à nous rappeler quand tu veux pour venir participer, évidemment, sur RMC, t'es le bienvenu. Merci à toi. Wilfried, prends ta petite voix aussi, tiens, pour nous parler de Lorient cette fois-ci, parce que finalement Lorient qui a besoin de points aussi, hein, qui est dans la place de barragiste et qui finalement s'en sort bien aussi, hein, sur ce match.
Ouais, On peut le dire, franchement, parce que même on avait le sentiment à l'heure de jeu qu'ils se contentaient du match nul et l'orienté. Voilà, ça gérait, ça poussait pas trop. Il y a ce but, mais ils ont eu le mérite. Ils ont eu le mérite de, je vous le disais, de pousser derrière, de mettre Toulouse en difficulté. On a fait les changements aussi. On a fait rentrer Bamba Dieng, Ponceau, Benjamin Mendy qui était sur un poste de ailier gauche. Et puis il y a ce but. Donc c'est un signe pour le Brice, pour l'entraîneur. Je vous propose de Régis Brice de l'écouter. Voilà, c'est une adhésion ce qui s'est passé à la fin, c'est ce qu'il dit.
Tant qu'on est un peu entre deux eaux, on se dit c'est un match nul, c'est quand même plutôt bien. Et effectivement, au moment où on encaisse, là on lâche le petit surplus. Et ce petit surplus-là, il est intéressant parce qu'il prouve l'adhésion à ce projet, l'adhésion à ce que le club veut produire. Et puis aussi une sorte d'unité avec des entrants qui ont apporté un surplus du petit quelque chose là qui permet de basculer.
Coach, tu es inquiet plus pour Toulouse ou pour Lorient dans cette course au maintien?
Les deux. Parce que, pourquoi? Parce que Toulouse a peut-être un meilleur effectif encore que Lorient, allez, admettons.
Mais ils jouent la Coupe d'Europe en plus.
Exactement.
Oui. Voilà. Tu penses que la Coupe d'Europe peut les handicaper? Alors après, on ne sait pas jusqu'où ils vont aller. Hein. Là, il y a un dernier match face aux Autrichiens de l'ASC, mais on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller encore. Hein.
Oui, parce qu'ils jouent à Lyon, ils vont en Autriche et ils ont deux réceptions avant la trêve, Rennes et Monaco.
Ouais, donc gros calendrier. Ouais.
Voilà.
Et pour Lorient, rappelle-nous le calendrier de Lorient si tu l'as aussi, parce qu'ils.
Eh ben, ils vont
Marseille,
Marseille, Strasbourg et à Brest.
Ouais.
Voilà, c'est kiff. Mais bon, c'est costaud pour Toulouse quand même. Hein. Puis surtout, après Lorient, ils devaient prendre ses concurrents directs, quoi. Ils ne prennent pas les trois points, coach. Le match à Lyon la semaine prochaine,
ça va être chaud. Pas réveiller les Lyonnais, quoi. Très chaud.
Mais surtout que bon, le Lyon qu'on a vu hier à Lens,
il y a du mieux.
Mis à part qu'il y ait trois buts évitables, appelons ça. le reste, ça ressemblait à une équipe un peu plus cohérente que ce qu'on a pu voir, ou plutôt ne pas voir depuis plusieurs semaines.
Il y a du mieux, effectivement. Merci beaucoup, Wilfried. Un partout, donc, entre Toulouse et Lorient. Le temps, le score en Ligue 1 dans le match qu'on suit cet après-midi entre Lille et Metz. Gibo, ça ne bouge pas, pour le moment.
Non, 66 minutes de jeu, 2-0 pour le LOSC. Début de Yazidche en fin de première période et Jonathan David sur pénalty. On va rappeler parce que c'est pas courant.
Oui.
Avec Lucas Chevalier qui a arrêté deux pénaltys.
Et ça, c'est fort. T'as raison de le dire. 18h36. On ne bouge pas avec Coach Courbis. On vous retrouve dans quelques instants dans l'Intégrale Foot sur RMC pour la suite de ce Lille-Metz. À tout de suite.
RMC, Intégrale Foot.
Florent aussi.
18h39 tout pile sur RMC. On est toujours avec Coach Courbis dans l'Intégrale Foot et on suit sur Lille-Reims avec. Ce Lille-Metz plutôt, avec Jean Baumel qui est toujours avec nous. Gibo, dis-nous ton impression que Lille contrôle un petit peu son avance pour le moment.
Ouais, c'est de la gestion pour l'instant. Voilà, s'ils peuvent en mettre un troisième, ils vont le faire. Alors Karlsson va faire son entrée et la sortie côté lillois de Yazidche. Voilà, c'est un peu logique. Karlsson qui est un petit peu mieux. On va voir les progrès dont il parlait hier en conférence de presse, Paulo Fonseca, vont se traduire en match de Ligue 1. Il a été intéressant à Ljubljana, bon, dans un contexte un peu particulier. Hein, on va rappeler que c'était
la piscine.
Une piscine, un terrain de boue, un champ de boue, tu vois.
C'est
un peu comme dans Fort Boyard, tu sais.
T'as le combat dans la boue. J'étais en train d'y penser, vraiment. On a les mêmes références, Jim.
Exactement. Et donc, l'Islandais, qui était un petit peu sifflé par le public. Alors, il est très jeune. Il faut le rappeler, Ralsson, il a 21 ans, donc il a quitté son championnat danois à l'intersaison. Et il y a son frère d'ailleurs qui l'a accompagné, qui est chez les plus jeunes côté lillois, mais il faut lui laisser
siffler,
un peu de temps.
Siffler pourquoi? Parce qu'on est exigeant avec lui, parce qu'on en attend plus.
Voilà, un peu de déception parce qu'il a porté pas grand chose dans le jeu. Voilà, c'est le bon moment. Il va avoir 20 minutes pour s'exprimer dans un peu de confort, puisque Lille mène 2-0 avec ce ballon dans les pieds d'Angel Gomez. Et en deuxième période, heureusement d'ailleurs qu'il a arrêté ce deuxième pénalty. Lucas Chevalier, parce que on sent, si elle faisait 2-1, franchement, les Messins de temps en temps.
Ça aurait pu tourner,
Sabali, on a vu une action de Sabali, attention avec la frappe de Zegrova, nouvelle frappe, elle est contrée et captée par Okidja. C'est Kabela qui a frappé en deuxième. Et avec la perte de balle, attention, encore une opportunité pour les Lillois avec Haraldsson qui va décaler vers Zegrova qui a été frappé dans la surface de réparation, le ballon est contré, ça sera un corner. pour les Lillois, le cinquième de la partie avec Zegrova qui lève les bras, qui harangue le public parce que bon, on s'endort.
Il n'y a pas beaucoup d'ambiance, hein,
d'ailleurs. Ouais. Bah, pourtant, on nous annonce 38 000 personnes sur 50 000, ce qui est plutôt pas mal. Mais c'est pas une ambiance de dingue cet après-midi. Pourtant, Lille fait un bon championnat et bah voilà. Certes, c'est peut-être le Metz.
Ça emballe pas, ouais. Mais voilà, bon, on va suivre le corner avec toi. Puis après, on parlera de ce côté un peu moins spectaculaire aussi des Lillois qui peut-être.
Ils sont toujours à deux là.
Entre Zegrova et Cabella.
Au niveau du coup de corner, je vois pas trop l'intérêt. C'est parti dans l'axe du but, la déviation de la tête. Ça ne fonctionne pas, c'est Yoro qui a tenté sa chance. Le jeune défenseur lillois qui risque d'être aussi convoité hein, parce qu'il est dans l'écurie Mendes désormais. Donc,
c'est plutôt bon signe. On peut lui faire confiance pour lui trouver des prétendants, effectivement.
18 ans, tu vois. Ouais. Ça fait penser, il a joué plus tôt hein, à Raphaël Varane qui est parti au Real Madrid à 18 ans. À 18 ans, il a déjà pas mal de matchs de Ligue 1, Lini Euro, mais c'est vrai que son avenir est très prometteur et on a une grosse confirmation de son coach qui, lui toujours aussi, n'en revient pas de la maturité qu'il a à 18 ans.
Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Et on parlait justement de ce côté peut-être moins emballant des Lillois, moins spectaculaire, qui expliquerait que ce stade n'est pas non plus enflammé par cette victoire qui se dessine. Ils sont peut-être moins spectaculaires, mais ils sont aussi, il faut le dire, Gibo, plus efficaces que l'année dernière. Alors à choisir, le coach, j'imagine qu'il signe tout de suite.
Lui. Ah bah oui, non, mais il n'y a pas photo. Et coach s'en souvient la saison dernière, parce qu'on a fait pas mal de matchs ensemble le dimanche à 17h avec Lille, où tu avais des fois Lille qui menait 3-1, ils ont fait 3-3 contre Lyon. Des scénarios, tu t'es dit, franchement, ils ont perdu. Franchement, entre 10 et 15 points, mais bêtement.
Et à la fin, le nombre de buts ratés à Angers.
Oui, et puis ça se termine à 3 avec un nul. Et du coup, tu te fais dépasser par Rennes. Et au lieu de faire l'Europa League, tu fais la Conference League. Et ça a été un petit peu cette dernière journée, eh bien, la confirmation d'une saison où Lille a perdu trop de points. L'année dernière, Lille aurait pu aller en étant un petit peu plus régulier. Ouais, être au moins quatrième au lieu de sixième. Donc là, cette année, ils ont choisi quand même d'être plus fort défensivement. Et c'est vrai que c'est très costaud défensivement, le LOSC, avec un très bon gardien. Puis une doublette qui était inattendue. Hein. Alexandro, c'était pas le numéro 1. On pensait voir plutôt Umtiti titulaire, avec Euro qui est prometteur. Mais puis Diallo qui va revenir. Mais Diallo est en fin de contrat et ne devrait pas revenir a priori avant 2024. Non, c'est défensivement, c'est très costaud. Et ils veulent plus perdre bêtement des points. Et c'est là qu'on se dit, il n'y a que deux défaites. Et quand tu vois aussi à Rennes, ils mènent 2-0, ça fait 2-2. C'était un petit peu le syndrome de l'an dernier. Voilà, le seul match totalement raté, c'est à Lorient, mais il n'y a que deux défaites. Attention, avec un ballon pour les Messins, le ballon côté gauche, avec Tété qui cherche une solution dans la surface. Oh, c'est bien fait avec une frappe extérieure du filet, extérieure droit. La tentative du Messin là qui passe largement
Chevalier
à côté.
A été beaucoup plus malin que tout à l'heure.
Il a pas tenté la faute. Il va pouvoir dégager son camp. Ouais, Lille plus réaliste et voilà, moins spectaculaire, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense qu'en fin de saison, tout le monde a plus envie de voir Lille en Ligue des Champions que d'être spectaculaire et finir en Conference League. Et c'est voilà. Mais cela dit, c'est pas catastrophique le jeu, hein, loin de là. Hein, mais voilà, c'est moins flamboyant que la saison dernière.
C'est ça, et moins emballant aussi, on imagine, pour le public.
2-0, on vient d'entrer dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. On va surveiller notamment les entrants et surtout Haraldsson, voir un peu ce qu'il apporte, s'il gagne des points dans l'esprit de Paulo Fonseca.
Ouais, on va revenir te voir évidemment à faire un petit tour sur les pelouses européennes. On va aller en Angleterre, tiens, avec toi Julien, parce qu'il y a un bon coup franc à venir aussi pour City face au choc, le choc face à Tottenham.
Toujours 2-1 pour les Citizens. Heung-Minson avait ouvert le score pour Tottenham, ensuite il avait marqué contre son camp et c'est Phil Foden qui donnait l'avantage à Manchester City. Avant la pause, 55e minute de jeu, il y a un bon coup franc pour les Citizens qui va être tiré par soit Julian Alvarez ou soit Bernardo Silva, et ce sera finalement Bernardo Silva qui va le frapper. Ça rentre dans la surface de réparation et c'est dégagé par les Spurs qui arrivent à s'en sortir. Il y a même peut-être un contre pour Tottenham. Et sur l'autre pelouse, à la Bayana en Allemagne, toujours 1-0 pour le Borussia Dortmund face à Leverkusen. Pour l'instant, ça relève un petit peu du miracle, ouais. La victoire des Allemands, parce que le Bayer Leverkusen se procure énormément d'occasions, mais n'arrive pas à concrétiser. Donc toujours 1-0. On arrive bientôt à l'heure de jeu.
Ouais, il y a eu un but en plus refusé pour le Bayer.
Un but exceptionnel de Florian Wirtz, ouais, qui a été refusé juste avant la mi-temps.
Ouais, effectivement, coach, il a les yeux partout. Je le vois, il regarde sur toutes les pelouses. Je sais pas comment tu arrives à suivre tout,
ouais,
le monde.
Je vois aussi un City qui est plaisant à voir quand même.
Ah ouais, quand il développe le jeu City, on voit que Tottenham a démarré fort et que c'est un petit peu plus dur. On retourne avec toi, Jibo.
Ah bah justement, avec Haraldsson qui donne vers Zegrova. Zegrova, l'entrée de la surface de réparation, le centre tire et c'est facilement capté par Alexandre Oukidja. 2-0 pour Lille. On était à la 77e. La relance rapide pour les Messins avec une récupération de balle pour Assoro qui donne en retrait à destination de Kandé. Et on essaie de repartir côté gauche désormais pour les Lorrains. Est-ce que ça va fonctionner? Gros pressing, hein, de notamment Thiago Santos qui voit Zegrova prendre le ballon mais le perdre dans la foulée et ça repart en faveur des Messins. Il n'y a pas de hors-jeu avec une belle accélération là côté gauche à destination de Diallo. Le ballon pour les Messins toujours, ils sont en réception, reste de réparation, le centre de Zapoto. Est-ce que ça va rentrer? C'est sauvé par Alexandro qui juste devant la ligne balance loin devant. Ils sont vraiment en grande réussite les Lillois depuis la tirée, ouais, et un ballon alors que remontée de balle compliquée là pour Jonathan David.
Ouais, c'est un peu c'est de fatigue cool. Là non,
ouais, je pense que Jonathan David est un peu fatigué,
ouais.
Mais en tout cas ouais, c'est voilà, il y a des jours avec et des jours sans. Bah le jour avec c'est carrément pour Lille, le jour sans c'est pour le FC Metz.
Ouais, il y a rien qui leur sourit là.
Ah ouais, non ça c'est bon. Après les pénalties, tu peux mieux les tirer aussi.
Oui.
Surtout le deuxième. Attention, la balle en surface de réparation parce qu'il y a des opportunités. Franchement, les Messins avec un peu plus d'application, ils auraient pu aller arracher un petit nul, pourquoi pas. Mais voilà.
Bah déjà peut-être marquer, tu vois, un petit but, ouais. Là, il reste un peu plus de 10 minutes à jouer. S'il marque là un petit but, on sait jamais. Hein.
Ouais, je suis un peu étonné que les Lillois poussent pas un peu plus parce que généralement quand ils attaquent vers leur cop, voilà, attention, là, c'est du gruyère dans la défense. Heureusement, une belle sortie là, aérienne de la part de Chevalier. Généralement quand ils attaquent vers leur cop, vers les docks virages est, voilà, ça met un peu le feu et on a l'impression que la semaine a été parfaite. Hein. Victoire à Lyon, victoire à Ljubljana. Et à chaque fois 2-0. C'est 2-2.
Oui.
Donc c'est voilà, ça leur va bien. Après, je pense que la fatigue est là et voilà, emballer le match dans ce dernier quart d'heure, il y aura clairement la semaine prochaine. On commence à réfléchir. Il y aura Klaksvik aussi, hein, pour assurer la première place en Conference League et aller directement en huitième de finale dans un groupe certes, hein, qui est pas difficile, mais il faut assurer le coup quand même, hein, face aux joueurs féroïens. Vous avez fait quand même un 0-0 là-bas avec Benjamin André qui décale Haraldsson. Haraldsson qui rate sa passe et c'est récupéré par les Messins avec une frappe, mais c'est stoppé par Chevalier, cette tentative d'Assoro. Et c'est
il frappe trop tôt, il y avait la possibilité d'avancer et de poser des problèmes au dernier défenseur.
C'est très étonnant. 2-0 pour le LOSC. On va rentrer dans les 10 dernières minutes de cette rencontre.
Il est 18h48. On revient dans quelques instants sur AMC avec Coach Courbis, avec Jean Baumel, pour vivre la fin de ce Lille-Metz. On vous le rappelle, 2-0 pour le LOSC. On revient tout de suite sur AMC avec l'Intégral Foot.
RMC Intégral Foot.
Florent aussi.
La dernière ligne droite de l'Intégral Foot. Il est 18h53 sur AMC. Mais vous restez bien avec nous parce que juste après, ce sera Bartoli Time. Marion Bartoli et Jean-Christophe Drouet qui reçoivent Tony Nadal pour nous parler du retour à la compétition de son neveu Raphaël Nadal. Ce sera pour le mois de janvier, a priori, en Australie. On retourne en Ligue 1 avec toi, Jibo. Un bon coup franc à venir pour Lille face à Metz.
Ouais, c'est quasiment un corner. Allez, à un mètre près, côté gauche. A priori, c'est Cabella. Non, qui l'a joué avec Zegrova qui va essayer de passer dans la surface de réparation. Oh, le raté de la part de Goodmanson, là, le contrôle totalement manqué par le Suédois. Et c'est un cadeau pour la défense messine, ou Kidja qui va pouvoir dégager. On est dans les 6 dernières minutes de cette rencontre. Il y aura du temps additionnel puisqu'il y a eu pas mal de changements. Allez, on va dire 2-3 minutes, mais on sent que Lille se dirige vers un nouveau succès.
On a l'impression que la décision, elle est faite depuis un moment. Finalement, en fait, presque tout s'est joué en première période, Jibo. Hein.
Bah oui, puis enfin, en même temps, voilà, s'il y avait eu ce penalty, le deuxième réussi à la 55e. Attention avec Haraldsson qui donne vers Angel Gomez qui est en grande forme. Angel Gomez qui se fait contrer, je pense, et le ballon récupéré par Oukidja. Ouais, à la 55e, ce penalty tiré par Camara est stoppé pour la deuxième fois du match par Chevalier. Et c'est peut-être vraiment le dernier tournant parce que à 2-1, les Messins, auraient certainement poussé un peu mieux et surtout voilà, puisqu'ils ont eu quelques petites opportunités quand même. Hein. C'est quelque part pour les Messins sur ce match-là qu'on comprend mieux pourquoi ils sont 9e au classement avant cette journée. Et on n'a pas l'impression, enfin, pas s'avancer, mais que voilà, il y a le maintien sera peut-être pas forcément.
Pas trop d'inquiétude à avoir pour eux, c'est ça que tu nous dis.
Voilà, 16 points. Bon, après, voilà, il y a du monde. Attention, avec il y a une position de hors-jeu là, encore avec l'accélération côté gauche là, mais ça ne fonctionnera pas. L'accélération d'Assoro, me semble-t-il, et ça va revenir en faveur des Lillois qui vont pouvoir se dégager. Non, c'était Diallo qui était monté côté gauche. Et donc, dans les 5 dernières minutes encore à jouer, les Lillois qui ont la possession du ballon, peut-être qu'ils veulent marquer, notamment Karlsson qui récupère ce ballon au milieu de terrain, au niveau de la ligne médiane. Que va-t-il faire? Il préfère s'appuyer sur Zegrova. On joue un petit peu à deux à l'heure du côté Lillois. On préfère garder le ballon. Zegrova encore une fois. Zegrova qui s'appuie sur Jonathan David. David en retrait vers Benjamin André qu'on n'a pas trop vu depuis son entrée à la place de Ben Taleb. Il cherche une solution pour Alexandro qui remet vers Benjamin André avec Cabella. Cabella à l'entrée de la surface de réparation. Le 1-2. C'est pas mal fait. Le ballon rentré. C'était trop collectif peut-être, coach, parce que là il aurait dû, je pense, être perso.
La mettre en plat de pied.
Bah oui, il doit frapper là, Cabella.
Il n'a pas besoin de refaire encore un contrôle.
Ah oui, bah oui, il fait un contrôle, il veut la remettre à Jonathan David. Il aurait dû tenter sa chance.
J'ai l'impression qu'il essaye de frapper, mais qu'il est un peu déséquilibré. Je me demande si c'est pas une solution de repli un peu qu'il a choisi. Parce que,
pourtant, pour moi, il était bien parti. La contre-attaque des Messins là, avec un ballon dans le pied d'Assoro.
Peut-être, écoute, ouais. Ça arrive. Hein.
Bon, tant que quand tu mènes 2-0, ouais, c'est pas très grave. Mais si t'es dans le money time pour essayer d'arracher quelque chose, là, tu peux t'en vouloir. Le centre Messin et le dégagement d'Alexandro qui met ce ballon directement en touche. Ouais, les Messins qui continuent à tenter des petites choses, peut-être de réduire l'écart du score. Le goal à virage peut servir alors qu'on aura encore un changement avec l'entrée de Hichem Ferra, un jeune Lillois de 18 ans. Et on va aussi voir le jeune Bouadi, hein, qui est très très bon, qui commence à faire de plus en plus d'apparitions, alors que Zegrova, lui, va sortir. Il sort de l'autre côté pour pas faire perdre trop de temps. Et le deuxième changement, on va voir d'ici quelques instants. Mais Bouadi a surveillé. Hein. Bouadi, 16 ans, hein, c'est très très jeune. Et alors Jonathan David qui va sortir. Ouais, donc changement tactique de la part de Paulo Fonseca. Voilà, on va voir qui va être en pointe, s'il y a une pointe d'ailleurs dans l'attaque lilloise. On va surveiller ça de près. Il prend tout son temps, Jonathan David, qui a marqué sur penalty, qui a eu un petit raté quand même, un beau raté en première période.
Ouais, on le sent pas encore ultra en confiance quand même, hein, le Canadien. Il va falloir un peu plus de temps, un peu plus de buts aussi pour lui dans le jeu, surtout pour retrouver un peu de confiance. Hein. On a vu les quelques opportunités qu'il a ratées, c'est quand même des grosses occasions.
Ouais. Puis. Alors après, on peut se rassurer, il a marqué en sélection dans l'heure de la trêve, il a marqué contre Lyon dimanche dernier.
Ouais, ça va venir en fait au fur et à mesure.
Ouais, c'est pas encore le jeu à temps d'avis de la saison dernière, mais voilà, s'il soigne, l'essentiel c'est de marquer des buts. Bon, ouais, pour l'instant c'est bien, mais voilà, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux et surtout qu'il lui reste un an de contrat. Et que si Lille veut bien le vendre en fin de saison, il va falloir qu'il empile un peu plus de buts, parce que dans sa dernière année de contrat, c'est un joueur quand même qui a été acheté 27 millions d'euros hein, à la Gantoise. Et cet été on pensait qu'il allait partir, alors le Husk en voulait 60 millions, c'était peut-être un peu beaucoup.
Ouais.
Voilà, peut-être aussi l'une des explications de son début de saison un peu compliqué, alors que le jeu est arrêté puisqu'un Messin a pris un coup et il y a un coup franc en leur faveur. Il reste une minute dans le temps réglementaire. Lille se dirige vers un nouveau succès et surtout quand on regarde le classement, les Lillois sont plus que bien, puisque
accrochés à cette quatrième place,
hein. Exactement, Flora, ils sont quatrième à exactement un point de Monaco, si je ne me trompe pas.
Exactement, c'est ça, tu vois. Voilà. Juste, ouais. Tu vois juste.
Voilà. Avec le classement sous les yeux et 3 points de Nice, donc il y a une fin de championnat intéressante, parce qu'ils vont là à Clermont, ils jouent le PSG et le dernier match est à Strasbourg, donc il y a de quoi faire de bonnes choses. Et le PSG Lille va être le Lille PSG le 17 décembre va être intéressant. 2-0, bientôt le temps additionnel.
Allez, rapidement en Europe, Julien, avec une égalisation de Tottenham face à City.
Ouais, c'est Giovanni Lo Celso qui vient égaliser face à des Citizens. Le match en seconde période était un petit peu plus équilibré et l'ancien Parisien vient mettre une superbe frappe qui vient de tromper Ederson. C'est son deuxième but de la saison, donc 70e minute de jeu, deux partout entre les deux équipes.
Et toujours 1-0 pour Dortmund en Bundesliga. Le prochain adversaire, évidemment, du PSG en Ligue des Champions, c'est sur la pelouse du Bayer Leverkusen.